Ok, oui, 10h03, excellent mardi sous le soleil. Puis ça, c'était pas nécessairement supposé aujourd'hui, fait qu'on va le prendre avec un immense plaisir. C'est 17 degrés, partiellement nuageux, mais ici dans le Bourgneuf, du moins, on a des belles percées de soleil actuellement. Dans les prochaines heures, pourrait y avoir de la pluie, pourrait y avoir même des orages. Je pense que vous le sentez. Si vous êtes à l'extérieur, là, c'est un peu lourd dans l'air. Il n'y a pas nécessairement d'humidex beaucoup pour l'instant, ce que je vois. Mais tu sais, ce matin, là, c'était du gros brouillard, puis tu le sentais que c'était excessivement humide. Puis ça va rester humide là, dans les prochains jours. Demain, c'est 20 degrés avec 30% de possibilité d'averse. Après ça, c'est 3 journées de pluie avant graduellement le retour du beau temps pour dimanche. Et lundi. Fait qu'on va profiter de la journée d'aujourd'hui, le temps que ça dure. Tu sais, même hier, on a eu quand même une belle journée jusqu'à temps qu'il recommence à mouiller aux alentours de... je revenais de ma course, puis là, c'est juste pour plugger que je suis allé courir.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Je revenais... Ben, j'essaie tranquillement de me remettre de mes blessures. Mais là, je dis mes blessures parce que là, j'avais mon genou. Là, mes deux tibias me font mal en simonac quand je cours.
Périostite.
Ouais, c'est ça
mais
le mot.
Tu cours comment, mettons?
C'est-à-dire?
T'as-tu décidé que tu te levais un matin puis t'es parti à courir ou t'as un programme?
Non, je suis... Puis c'est dur pour moi parce que moi, quand toutes les autres fois dans ma vie que j'ai décidé que... Moi, là, le mois de mai, je me réveille puis là, je me mets à courir puis là, je cours.
Ouais.
D'habitude, c'est ça. Mais là, ça fait comme 2 ans que je peux plus vraiment faire ça à cause de mon genou. Fait que là, j'y allais vraiment mollo. Là. Hier, j'ai poussé la machine un petit peu plus. Mais non, en ce moment, j'y vais quand même mollo.
Je repose ma question. Là, tu l'as contourné tel un bon politicien.
Je suis un programme.
OK, bravo.
Puis je le suivais à la lettre jusqu'à hier, que là, je me suis dit, là, ça. Puis à la fin, je l'ai dévié un peu.
OK.
Mais pas trop.
Puis depuis quand t'as mal au tibia?
Ça fait une couple de jours.
OK, donc ça n'a pas rapport avec le fait que tu as poussé la machine.
Non, non. Okay. Je pense justement j'ai poussé la machine parce que ça me faisait chier. J'étais comme, voyons, j'ai 25 ans.
25 ans depuis la semaine passée.
Oui, c'est ça. J'allais dire 23. Dans ma tête, je suis encore à 23. Mais non, c'est ça. Fait que...
Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans?
Ben, pas dans moi, ma vie. Pour vrai, ma vie, depuis que j'ai 20 ans, là, je fais la même affaire. Je travaille le matin à la radio, puis je vais faire la fête la fin de semaine, puis ma vie depuis 5 ans, moi, ça tourne en rond.
La radio la semaine, du karaoké la fin de semaine, puis des shows.
Exact, c'est ça depuis 5 ans. À la différence qu'il y a 5 ans, il y avait la COVID.
Ouais.
Que là, ça
moins
venait,
de
ouais, puis moins de bars aussi la fin de semaine, on n'avait pas le droit.
Tu te reprends.
Ouais, non, mais exact. Fait que non, c'est ça. Sur la route, il y a quoi que ce soit, 88-971-1021, c'est toujours le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Vous pouvez nous écouter sur le blvd.fm avec la web radio, l'application mobile Boulevard 101, vos haut-parleurs intelligents à la maison et les bonnes vieilles ondes FM au 101. Officiellement, Catherine Bachand, salut.
Officiellement, bonjour.
D'après moi, tu as plus dormi que moi la nuit dernière.
Garanti que oui.
Puis j'y ai pensé après la troisième période à aller me coucher. Puis le pire, je l'ai tellement jinxé la prolongation. Hier, je parlais de Gab Marino, puis je disais, hey, on a été chanceux à date, on n'a pas eu de longue prolongation, tu sais, la semaine avec un match à 20h. Puis même que j'ai même parlé de Gab de deuxième, troisième période de prolongation, puis on s'est écrit, Gab Marino, puis moi, au début, ben, justement, quand on s'en allait en prolongation, puis j'ai dit, ça y est, j'ai jinxé, on va avoir 2-3 prolongations à soir, on va se coucher à minuit et demi. Finalement, ça n'a pas été si pire. Là. Je pense que aux alentours de 11h30, c'était fini, mettons.
Mais si pire, quand le cadran sonne à 3h30, 4h.
Ouais, ben c'est ça. D'habitude, moi, il est à 3h40. Là, parce que je prends tout le temps ma douche le matin. Là, j'ai pris ma douche hier soir entre la 2 et la 3. Comme ça...
T'allais être frais et dispo ce matin, ouais, pour économiser un peu de temps.
Ouais, fait que je me suis acheté... Mon cadran le matin était à 4h. Fait que j'ai gagné un 20 minutes de sommeil. Fait que j'ai dormi un genre de... à peu près 4 heures.
Eh, Seigneur! Ouais, non, moi, c'est sûr que je peux pas. Puis c'est pas... Puis j'avais la conversation avec Martin Dallaire, justement. Puis je disais, je sais pas comment tu fais. Il dit, ouais,
mais... Il l'a toffé, lui?
Oui, mais il dit, c'est beaucoup trop tard pour moi, Catherine, un lundi. Puis tout ça, j'étais là, oui, mais t'es pas obligé. Il dit, mais c'est comme si je te disais de pas écouter une soirée d'élection. Premièrement, ça arrive une fois. Une soirée d'élection, c'est pas une série, tu comprends? Ouais. Puis deuxièmement, à un moment donné, il m'est arrivé aussi d'aller me coucher à quand le dévoilement ou le dépouillement mène trop tard, puis je vais me reprendre le lendemain matin sur des highlights parce que...
Mais c'est pas le feeling...
Non, je comprends, mais tu t'hypothèques quand même pas pire.
88-971-101, l'avez-vous terminé la game d'hier, défaite en prolongation du Canadien par la marque de 3-2, exactement comme... En fait, c'est quasiment des copier-coller, là, les games de samedi et d'hier, c'est-à-dire le Canadien s'est fait dominer ben raide au niveau des tirs, s'est fait dominer physiquement, puis il a quand même réussi à amener ça en prolongation grâce à Jakub Dobesch qui a été sensationnel, mais...
Mais tu sais, je vous comprends, là, j'ai beaucoup d'empathie pour vous, sincèrement. Là. Moi, je serais pas capable. Je serais juste pas capable de toffer tout ça.
Tu sais, je me dis...
Un one-shot deal, une fois, c'est correct, ouais. Là, mais t'as une série complète. Là.
Ah, c'est que le lundi, en plus.
Ça hypothèque mettons, la semaine. Là.
La semaine passée, la série commençait le jeudi. Fait que tu sais, c'était correct. T'avais juste le vendredi. Là, si tu fais ça lundi, tu sais, je me dis... Parce que là, le match 4 sera demain. Fait que là, je me dis, à soir, je peux me coucher super tôt, récupérer pour demain. Mm. Après ça, jeudi, je me recoucherai de bonne heure.
Mais là, je suis curieuse parce que, tu sais, Isabelle nous dit qu'elle a suivi ça jusqu'à la fin. Louis, la même chose. Mais moi, je suis juste curieuse de savoir à quelle heure vous vous levez. Le cadran sonne à quelle heure pour vous?
Oui, c'est sûr que ça, parce que...
C'est juste ça, moi, mon enjeu, dans le fond, parce que sinon, si mon cadran sonnait, mettons, à 6, 7, je l'aurais peut-être écouté.
Tu sais, quelqu'un qui est beaucoup moins patient que nous. J'ai fermé la TV après première période. Moins 4 tirs, non merci. Ouais. Quelqu'un qui a vu que ça s'enlignait un peu nulle part, ce match-là. Puis encore là, ce qui est spectaculaire, ce qui est spectaculaire pour le Canadien, c'est que, mettons qu'on dit qu'il y a 10 périodes qui ont été jouées. Mettons qu'on met les deux périodes de prolongation ensemble pour dire que ça a fait à peu près une période. Là. Il y a 10 périodes de hockey qui ont été jouées dans cette série-là. Le Canadien s'est fait manger pour 9 de ces 10 périodes-là. Et le Canadien est à 2 tirs de mener la série 3-0. 2 tirs en prolongation qui mènent en but, tu peux mener la série 3-0 alors que tu t'es fait manger pour au-dessus de 90% de la série. Tu sais, ça se joue à pas grand-chose. Hier, le Canadien avait scoré pour prendre les devants. Il restait à peu près 10 minutes de mémoire en troisième période. Et malheureusement, ou heureusement, avec la technologie aujourd'hui, ben tu peux aller voir. Et ouais, Caulfield était hors-jeu de quelques centimètres il y a 3 minutes quand ils sont entrés dans la zone. Fait que cette entrée de zone-là, il y a 3 minutes, t'es pas bonne. Ben on refuse le but. Le Canadien est peut-être à ça, à 2 centimètres de Cole Caulfield qui prend un peu plus de temps avant de mener la série 2-1 aujourd'hui. Puis il était à un tir le dernier match de mener 3-0 la série. Mais là, la réalité, c'est que les Canes mènent la série 2-1, sont complètement dominants. Les Canes sont reposés avec leur longue période de repos. Le Canadien est brûlé raide. Moi, ma prédiction de base, c'était Hurricanes en 6. Puis j'ai quasiment le goût de switcher ça à Hurricanes en 5.
Ah ouais, hein?
Ben, écoute, on n'est pas là pantoute.
Moi, je connais pas beaucoup le hockey, tu le sais, mais j'accroche des fois sur des statistiques. Puis là, j'avais entendu une statistique hier à l'effet que l'équipe qui remporte, quand c'est 1-1, comme c'était le cas...
Oui, c'était 1 avant le match d'hier.
1-1 avant le match d'hier. Bon, parfait, exact. Merci. L'équipe qui allait remporter le match d'hier... 3 fois sur 4, c'est l'équipe qui va gagner la série après.
Tu vois,
ça, c'est ouais. Le genre de statistiques, moi, qui reste dans ma tête. Fait que là, je me dis, ben, peut-être qu'avec ce genre de statistiques-là, j'aurais changé ma prédiction comme tu viens de faire.
Moi, dans bien des contextes, ce match-là me dérange pas tant que ça. Celui qui fait 2-1 pour une équipe, moi, c'est lui de demain. Parce qu'il y a le monde de différence entre tu te ramasses à perdre la série 3-1, puis là, t'es obligé d'en gagner 3 de suite... Oui. Dont 2 en Caroline, oui. Ça pour moi, ça va être insurmontable. Si le Canadien perd demain, oubliez ça. Mm. Mais si le Canadien gagne demain, réussit à amener ça, la série à 2-2, là, je vais reprendre espoir. Mais pour l'instant, mon niveau d'espoir est assez bas, merci, avec la façon de jouer. Puis le pire, je serais même pas... Tu sais, oui, je vais être déçu comme n'importe quel fan du Canadien parce que hey, la coupe est quasiment à notre portée, là. Mais il n'y a personne qui voyait le Canadien là cette année.
Non,
le
sûr.
Canadien n'a même pas été acheteur à la date limite des échanges. Le CH est encore au début de ce qu'il va faire dans les prochaines années. Là. Fait que là, c'est juste de l'expérience qui rentre dans la banque d'expérience. Pis... Fait qu'on va être déçu quand le Canadien va être éliminé si ça arrive. Mais ça va être tellement du positif que tu vas pouvoir amener dans tes bagages dans les prochaines années quand vraiment tu vas être rendu une équipe à maturité qui va aspirer chaque année à la Coupe.
Et est-ce que ça vient comme mettre un petit nuage sur ton excitation pour le match de mercredi ou pas du tout? T'sais, est-ce que tu penses qu'on remplit moins des bars, on remplit moins le centre Vidéotron à cause de ça? Ou...
Ben là, demain, c'est l'Agora. Demain, il n'y a pas de centre Vidéotron.
C'est vendredi. C'est vendredi, centre Vidéotron, ouais. T'as raison, oui.
Mais, puis juste après moi, je vais y aller d'ailleurs au centre Vidéotron vendredi. Là. Mais encore là, ça, tu sais...
Mais si... s'ils perdent demain, tu vas-tu au centre Vidéotron vendredi? Tu y vas-tu quand même?
Peut-être en me disant que ça va être la dernière.
OK.
C'est peut-être plus... Le mood va être différent. Mais pour demain, tu sais... Puis je veux pas être pessimiste parce que moi, depuis le début des séries, j'étais un peu tout le temps never too low, never too high. Là. Autant, tu sais, après le match 1 contre Buffalo, alors que tout le monde pensait qu'on allait se faire sacrer une rince en 4 contre Buffalo... Moi, je disais non, j'ai vu du positif dans ce match-là. Autant des fois, je n'allais pas quand on a regagné un match d'après, puis que là, tout le monde nous voyait gagner en 5 contre Buffalo. J'essaie de tout le temps rester dans le milieu. Puis j'étais un peu dans ce mood-là face aux Canes jusqu'à hier. Après samedi, tu te dis, OK, c'est un match. Tu vas t'ajuster. Le Canadien l'a fait depuis le début des séries. C'est la première fois depuis le début des séries que le Canadien perd deux matchs de suite.
Ouais.
Là, il n'y a pas eu vraiment d'ajustement. Fait que là, je suis moins confiant pour la suite. Mais à suivre.
Mais ça avait été quand même une pas pire dégelée là, pour le premier match. Là. Je comprends pas tout à fait qu'est-ce qui s'est passé. Je comprends que là, les Canes se sont ajustés, comme
là,
tu dis. Mais...
Le premier match avait été la première période. Le Canadien en avait scoré 4 en 10 minutes en première période parce qu'à part ça, les Canes avaient été meilleurs même au courant du premier match, mais le Canadien avait été en mesure de limiter les dégâts puis de garder son avance. Fait que tu sais, c'est que t'avais pris ton avance, t'as été en mesure de la garder parce que depuis cette première période-là, le Canadien a de la misère en tabarouette à générer de l'attaque. Fait que, bref, je veux pas dire que c'est terminé, c'est pas fini tant que c'est pas fini, mais je suis déçu.
Serge, il dit, c'est là que je vous comprends pas, les partisans du CH. Ils se font dominer depuis le début et vous pensez que vous pourriez mener 3-0 dans la série. Faut voir la réalité, ils lancent pas. Comment compter des buts?
La réalité, Serge, c'est que je suis un gars de fait et que factuellement, le Canadien est à deux tirs de mener cette série-là 3-0.
Ben oui, à cause de la prolongation.
Il devrait pas. Hey, si le Canadien menait 3-0 en ce moment, ce serait un vol en plein jour. Là. Ça n'aurait aucun foutu bon sens. Mais c'est factuel, ce que je dis. Le Canadien, malgré le fait qu'il se fasse dominer comme ça à pas de classe, est à deux tirs de mener cette série-là 3-0. C'est juste pour imaginer que ça peut aller d'un... Puis Serge dit ça prend des tirs. Oui, Anderson, le gardien des Canes...
Oui, c'est trois fois le nombre de tirs du côté des Hurricanes par rapport aux Canadiens.
Anderson est tellement chancelant. Il a pas l'air de voir les pucks. Ça prend des rondelles au filet. Ça, on s'entend là-dessus, Serge, là. Tu peux pas hier. Le Canadien a passé un genre de... Quand tu prends la troisième période puis une portion de la prolongation, là, le Canadien a été 25 minutes de jeu sans faire un tir. Ça n'a aucun bon sens. Mais malgré ça, le Canadien hier était à un tir qui pogne le net puis qui rentre de gagner. Suzuki a manqué le net en prolongation, en échappé. Ça, ça n'a pas le droit d'arriver.
Non.
Mais il n'est pas passé. Il avait déjoué, selon moi, Anderson sur son tir. Il a raté le net. Bon, ça arrive. T'es à ça que le Canadien se sauve avec la victoire hier. Fait que bref, il y a des raisons de garder espoir en disant « Crime, tu te fais dominer à ce point-là, puis t'es quand même proche de gagner. » Ça, tu peux le voir comme
parce
ça, c'était
optimiste. Parce qu'en prolongation, c'est 50-50 les chances tout le temps ou ben non, on s'est tué un peu le statistiquement.
Ben,
moi, je gosse ces statistiques, Max. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? J'accroche là-dessus.
T'sais, le Canadien s'est fait dominer hier en prolongation, mais suffit d'une contre-attaque, puis d'un shot, puis ça rentre, puis tu gagnes. Fait que c'est là où tout peut t'arriver en prolongation. Tu peux te faire dominer pendant... Ça peut tourner dans ta zone pendant 10 minutes sans arrêt. Suffit d'un revirement, tu t'en vas scorer. Et puis quelqu'un note qu'en effet, Mike Matheson a pogné le poteau aussi hier en prolongation. Ça compte pas pour un tir. Le shot était 2 cm plus bas. C'était un but qui donnait la victoire aussi aux Canadiens. Fait que hier, le Canadien, plusieurs fois, si on compte Caulfield puis son hors-jeu, à au moins 3-4 reprises, le Canadien, hier, en fin de match, est passé à quelques centimètres de gagner. Fait que ça peut jouer à ça. Fait que ça, c'est le côté positif, de dire « Hey, on n'est pas loin ». Puis t'as le côté peut-être plus pessimiste de dire « on se fait manger, puis ça va être de pire en pire, puis on va perdre en 5. » Puis moi, malheureusement, ce matin, je suis peut-être plus dans cette gang-là. Bref, on a un gros show qui s'en vient. Nathan Meilleur va passer nous voir en fin d'émission. Mathias Turcotte pour les nouvelles. Audrey Pinchot pour l'Open Mic. Dans la prochaine heure, on va faire le tour des gros dossiers chauds d'actualité. Il y en a pas mal, entre autres. Christine Fréchette, la chef de la CAQ et première ministre du Québec, qui nous gâte en allant piger dans nos propres poches puis qui nous redonne cet argent-là. Mais moi tu sais, on en a en masse parlé hier, là, même si on n'avait pas encore tous les détails de toutes les annonces. Moi, la chose qui m'a accroché, c'est quand on a appris que Christine Fréchette ou son équipe lançait une enquête pour savoir le courriel que Éric Girard a envoyé à Christine Fréchette pour dire « Calme-toi, Christine, tu dépenses trop. » Comment ça, c'est sorti dans les médias? C'est qui a sorti ça dans les médias? Fait que je veux qu'on ait une discussion à ce sujet-là, notamment. Puis aussi, une autre discussion que je veux qu'on ait, c'est sur les routes à Québec. Parce que là, on apprend via Radio-Canada ce matin qu'on veut tout refaire la capitale. Puis on nous dit qu'on a des scénarios, puis là, on a donné un contrat pour... on l'a-tu donné le contrat?
Non, on n'a pas donné
pas
de contrat. On est en train de voir, c'est ça, d'évaluer là, qu'est-ce qu'il faudrait faire, puis ça pourrait être quoi les scénarios, justement. Mais c'est parce que je pense que ça prend pas la tête à Papineau pour se rendre compte que Capitale est complètement dépassée. Là.
Ben oui.
Complètement dépassée. Peu importe le moment de la journée, ça, de la semaine.
La fin de semaine.
T'es pogné là-dedans.
Puis on va aussi se parler du pont d'étagement Robert Bourassa, Le Bourgneuf.
Encore?
Parce que le Journal de Québec nous en parle ce matin avec une dame du comité citoyen là, du coin de Le Bourgneuf qui dit « Nous autres, on n'y croit plus. Il y a un conseiller municipal la semaine passée qui nous a dit que c'était terminé. » Alors que nous, la semaine passée, on avait le ministre Jean-François Simard, responsable de la capitale nationale. Et lui, il nous a dit... Il y a une annonce qui s'en vient. Bref, on va se garder du stock pour après la pause. On va faire les nouvelles aussi avec Kat Bachand. Vous écoutez Le Point de Max, 10h19. Le Point de Max.
Laissez-moi vous parler du Momentum Refuge Nature, un endroit que j'affectionne particulièrement. On est en plein cœur de Charlevoix. On est tout proche du parc des Grands Jardins, du parc des Hautes-Gorges, de Baie-Saint-Paul. C'est un endroit pour vous recueillir, pour vous déposer, pour vous reconnecter à vous-même, à la nature, à l'être aimé peut-être. Ce sont des micro-chalets de luxe en plein cœur de la forêt. Vous avez votre spa sur votre balcon en plein cœur de la forêt. Tellement un bel endroit. Des sentiers privés, la rivière, les chutes, la plateforme en forêt pour lire, pour méditer, pour faire du yoga, observer les étoiles. Et actuellement, on a décidé de prolonger la promo du printemps jusqu'au 18 juin. Ça veut dire que du dimanche au jeudi, c'est 199 $ la nuit plus taxes pour votre micro-chalet en plein cœur de Charlevoix. Profitez-en, il faut réserver en vous rendant sur Momentum avec un O, momentumrefugenature.com.
C'est la saison du F-Spa.
10h25 dans Le Point de Max à Boulevard, 101-88-971-1021. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou si vous voulez réagir aux différents sujets qu'on traite ensemble, et c'est une grosse journée quand même d'actualité. Il y a quelques sujets qu'on veut prendre le temps de bien traiter à part après le bulletin de nouvelles, mais dans les news, Kat, il y a du stock.
Ouais, tu l'as dit, après le bulletin de nouvelles, on va revenir sur cette enquête qui est en cours maintenant pour trouver d'où vient la fuite qui a mis le gouvernement Fréchette dans l'embarras.
C'est qui
la
taupe?
Le courriel qui a été envoyé par le ministre Girard, puis on va aussi parler du pont d'étagement aussi. On aura-tu un, on n'aura-tu pas? C'est une nouvelle qui est en une du Journal de Québec aujourd'hui. Malgré une faillite qui est toujours en cours et des dettes évaluées à 375 millions de dollars, le promoteur immobilier Stéphane Huot participe actuellement à plusieurs projets résidentiels dans Lotbinière. Il agit comme consultant pour deux développements à Sainte-Croix, soit le domaine de la Rive et le quartier La Croisée. Ensemble, les projets totalisent une construction d'à peu près une centaine d'unités résidentielles. Et selon les informations obtenues par le bureau d'enquête, Stéphane Huot souhaite aussi développer un petit centre commercial dans la municipalité. Le projet pourrait notamment regrouper une pharmacie, une SAQ, une coopérative de médecins et une nouvelle épicerie parce que le village a perdu son épicerie l'été passé. Et ça, c'est vraiment décrié de la part des citoyens. Le maire de Sainte-Croix, Stéphane Dion, confirme l'implication du promoteur tout en assurant que la municipalité prend des mesures pour protéger les intérêts des citoyens. Stéphane Huot avait déclaré des dettes de 1,2 milliard de dollars lors de la faillite du groupe Huot en 2023. Ses créanciers s'opposent toujours à sa libération de faillite, invoquant notamment sa gestion financière et son train de vie. Si vous trouvez ça un peu spécial que Stéphane Huot soit encore impliqué là-dedans, dans une entrevue qu'il avait accordée accordé il y a un petit moment. Il dit, c'est comme si Elvis faisait faillite. Ça veut pas dire qu'il ferait pas des spectacles le lendemain.
D'ailleurs, le bureau d'enquête du journal qui a appris que Stéphane Huot revient tout juste d'un séjour sous le soleil de la Floride.
La ville de Lévis souhaite resserrer l'accès aux voies réservées de la route des Rivières et du boulevard Guillaume-Couture pour réduire la congestion et aussi améliorer la ponctualité du transport en commun. Le Soleil rapporte que le conseil municipal doit voter aujourd'hui sur une demande officielle adressée au ministère des Transports pour élargir les périodes d'interdiction aux automobilistes. Les voies réservées seraient accessibles uniquement aux transports collectifs et aux véhicules admissibles de 6h à 9h30 et de 14h30 à 18h30. La ville propose aussi de resserrer les règles de covoiturage. Il faudrait désormais 3 occupants dans un véhicule plutôt que 2 pour emprunter certaines voies réservées. L'exemption accordée aux véhicules électriques pourrait également être retirée sur certains tronçons, notamment sur la route des Rivières à Saint-Nicolas. Selon la Ville, ces mesures sont nécessaires en raison des importants travaux routiers qui sont prévus jusqu'en 2027 et on estime que la congestion actuelle nuit à la fiabilité du réseau de transport collectif et entraîne régulièrement des retards importants sur les lignes d'autobus.
Les véhicules électriques, de dire qu'ils auront pu moi, c'est une chose, mais quand t'embarques dans le covoiturage, que là, 2 sera plus assez, que ça va en prendre 3, là, j'ai un problème.
Mais moi, j'ai vu ça ailleurs aussi, le 3 pour le covoiturage, sauf que je pense que d'abord et avant tout, il faudrait peut-être juste faire respecter les corridors réservés.
Parce qu'il y a quelques semaines.
Il y a quelques semaines, je me demande si c'était au soleil, justement.
C'était dans le
soleil aussi. Ou est-ce que plusieurs chauffeurs d'autobus se plaignaient du fait que ce n'était pas respecté, mais c'est surtout... On ne sévissait pas.
Mais non, on
avait les chiffres.
C'était ridicule.
On ne sévit pas pour les voies réservées du tout. Alors peut-être que si on commençait par faire respecter la réglementation, on n'aurait peut-être pas besoin de resserrer la réglementation.
Je me souviens que dans ce dossier-là du soleil, on avait fait un très bel job. Là, on était allé chercher les chiffres.
Ouais.
Puis après ça, on était allé se poster. Le journaliste était allé quelque part où c'est supposé être une voie réservée. Puis il nous disait, hey, depuis, je me souviens pas combien de temps, mais tu sais, c'était une poignée de... Il dit, en quelques minutes, là, je n'ai vu quasiment des dizaines.
Exact.
C'est... Fait que là, tu te dis, OK, oui, j'ai eu le même réflexe que toi quand j'ai vu ce texte-là ce matin. Ouais, là, c'est bien beau de mettre des nouvelles règles. Tu peux-tu vérifier à ce que les règles que tu as en ce moment soient respectées? Puis peut-être que tu n'auras même pas à échanger tes foutues règles.
Mm-hmm. Ben oui, c'est ça. Puis de élargir les heures, ça se peut. Parce que, tu sais, je pense que c'est de 7h30 à 9h30 que c'est actuellement. Mais là, de commencer ça à 6h, on le sait, là, ça arrive sud, à 6h, ça commence le
ben
trafic.
Oui.
Fait que moi, tu sais, ça, je trouve ça pas si pire. Puis d'habitude, c'est de 15h30 à 17h30. Là, ça serait de 14h30 à 18h30. Fait que, tu sais, d'élargir
ça
la portée, c'est tel que tel.
Aucun problème.
Mais commencer par sévir.
Oui.
Bien comme faut, puis après ça, vous verrez s'il faut monter ça à 3 personnes.
Bien d'accord.
T'sais, ça serait l'autre affaire. Projet informatique en santé qui devait coûter 18 millions va en coûter 126. Plus de 126.
C'est ça, une enquête. Ça va bien.
Numéro 1. C'est Radio-Canada qui parle de ça. On parle du projet informatique d'orchestrateur des rendez-vous de santé qui sert à mettre en relation des patients qui n'ont pas de médecin de famille avec des cliniques médicales qui ont des rendez-vous à offrir.
Et l'explosion des coûts, c'est une affaire. Tu vois ça dans le titre, tu dis « bon, encore ». Mais là, quand on nous parle du processus, ouais, de ce qu'on a fait, tu te dis « tabarouette qu'il y a du monde qui mériterait de perdre sa job ».
Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. On parle ici d'une explosion de coûts de 600%. OK, voici ce qui se passe dans ce dossier-là. C'est un peu capoté. Dans le fond, on explique que le projet d'orchestrateur a été géré par le ministère de la Santé jusqu'à ce qu'on transfère les responsabilités à Santé Québec en 2024. On a apprécié le dossier, mais on a demandé plusieurs fois à l'entreprise d'élargir sa portée à plus de cliniques, d'ajouter des fonctionnalités, parce que, évidemment, ça a augmenté les coûts. Et malgré tout ça, Santé Québec a lancé un appel d'offres pour recréer un autre orchestrateur de A à Z, et le contrat a été confié en décembre à la multinationale québécoise CGI.
Fait que ça allait tellement bien.
Ouais.
Qu'on continuait, on ajoutait de l'argent, puis hey, on étend ça, ça va bien, on l'adore, votre logiciel. Puis là, maintenant, on fait comme, hey, ça va tellement bien qu'on va changer. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que les licences coûtaient cher, puis bon, ça peut peut-être s'expliquer, mais reste que même avec ça, tu te dis, ça fait boboche, là. Puis en effet, tu le CGI.
Ben là, à chaque là fois aussi, qu'on ajoute CGI liens. Ces temps-ci, c'est ça. On a peur un peu. Il y a une source de Radio-Canada chez Santé Québec qui illustre que c'est comme un client de voiture de location à long terme, mais qui demande sans cesse des nouvelles options. Un changement de peinture, ajouter un aileron, et que finalement, on décide de s'acheter une deuxième voiture pour l'utiliser à la place de la première.
J'ai beaucoup aimé l'image.
C'est très, 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 très clair. On comprend très bien. Le gouvernement du Québec devrait finalement adopter une loi interdisant la vente de boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans. Radio-Canada qui a appris que tous les partis politiques ont été convoqués hier à une rencontre et que s'ils donnent le feu vert, la loi pourrait être rapidement adoptée avant la fin de la session parlementaire en juin. Toutes les formations politiques étaient représentées, sauf le Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, qui dit avoir été invitée trop tard et qu'elle avait un autre engagement. Pour l'instant, Québec interviendrait strictement sur la question de l'âge, laissant de côté les autres recommandations d'un rapport qui a été soumis en 2023. Le rapport recommandait notamment l'interdiction de promotion de boissons énergisantes auprès des personnes mineures et dans les centres sportifs, un prix minimum pour les boissons énergisantes et l'analyse de la possibilité d'instaurer une taxe aussi sur les boissons énergisantes. Ce rapport suivait le décès de Zachary Miron, 15 ans, qui, après la consommation d'un Red Bull dont les ingrédients ont été réagis avec un médicament pour le TDAH, il avait perdu la vie, lui, malheureusement.
Bravo, même que là, c'est 16 ans. Moi, j'aurais mis 18, là, puis je comprends que je ne suis pas un professionnel qui a travaillé sur le rapport, là, mais moi, j'aurais eu aucun problème à mettre ça à 18 en tant que jeune gars de cégep qui se bourrait à face de Monster à 17 ans, là, en n'étant pas nécessairement conscient. T'sais, aujourd'hui, je le fais. C'est un matin, je l'ai pris, ma Red Bull, puis j'ai pris un café après, puis c'est pas bon, puis c'est peut-être dangereux. J'ai 25 ans, je suis capable de prendre mes décisions. À 17 ans, de boire deux Monster en faisant mes devoirs le soir, parce que j'ai brossé la veille, en n'étant pas trop conscient des risques. C'est bon, c'est un départ en bas de 16 ans, bravo.
J'imagine aussi que là où je me questionne, c'est la promotion qu'on fait justement des boissons énergisantes dans certains lieux publics, ce qu'on appelle des activations. Où est-ce que tu vas avoir ces entreprises-là qui vont être sur le terrain avec des équipes de promotion puis qui vont être là pour faire découvrir la marque puis blablabla, blablabla. Des fois, ça se retrouve dans des endroits où est-ce que c'est des très jeunes qui sont là et ça vient pas nécessairement avec le côté discernement de ça pourrait être dangereux. Fait que je pense que moi, j'aurais aussi aimé qu'on puisse élargir un petit peu plus
ça,
la réglementation.
La taxe, ça va être beau, là.
Ouais, bah, c'est
la taxe, moi, ça va être bien correct.
Mais la promotion, je t'avoue que j'ai un malaise et j'ai un malaise depuis très longtemps. Parce que je l'ai vu dans certaines compétitions sportives impliquant des jeunes, ça me met mal à l'aise.
Puis, tu sais, quand je parle d'être au courant des risques, là, moi, je me lève un matin, je me suis couché tard, je prends une petite Red Bull avant de venir travailler. Je prendrai jamais une Red Bull avant d'aller courir ou avant de jouer au hockey. Là. Jamais, jamais, jamais. Mais un jeune de 16-17 ans a peut-être pas cette réflexion-là qui vient.
Eh bien, moi, je me rappelle là, quand j'étais au début, là, genre j'étais plus jeune que toi là, maintenant. C'était bien la mode de mêler les boissons énergisantes avec de l'alcool.
Ah, mais ça, je le fais beaucoup.
Puis ça, ça peut être très dangereux.
Ouais.
Ça peut être très, très, très dangereux. Moi, j'ai un ami qui a eu des enjeux cardiaques puis qui ont été obligés de le... Comment qu'on appelle ça, là? L'espèce de réanimateur, là.
Ouais,
tu sais, tu comprends ce que je crois? Le choc, là?
Oui.
They had to shock him.
Quelqu'un va nous le dire par texto.
Le défibrillateur.
Merci
beaucoup. Ma mémoire est revenue. Alors, fait que moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'il y avait un enjeu, qu'il fallait que tu slackes un peu la machine là-dessus. Mais, Et je termine avec un dossier qui se retrouve dans Radio-Canada aujourd'hui, les liaisons secrètes entre supérieurs et subordonnés des Forces armées canadiennes sont maintenant interdites. C'est une nouvelle...
Le mot « secrète » est important parce que c'est pas les liaisons qui seront interdites, c'est juste qu'il va falloir que tu le dévoiles.
Exact. Une nouvelle directive qui vient 4 ans après une recommandation de Louise Arbour à cet effet. Elle qui publiait en 2022 un rapport d'enquête suivant une série de scandales sexuels dans l'armée. La directive indique que les militaires ont le droit d'établir des relations personnelles avec d'autres militaires, des employés du MDN, des entrepreneurs du MDN ou des militaires d'une force alliée, tout en maintenant un milieu de travail professionnel et respectueux. Mais dès maintenant, toute relation affective, romantique ou sexuelle doit être divulguée lorsqu'il y a un déséquilibre de pouvoir caractérisé par le grade, l'ancienneté, le poste ou l'expérience. Les relations déjà en cours doivent aussi être rapportées. Il n'y a pas de clause grand-père dans ce dossier-là. Une ancienne directive semblable devait déjà être appliquée pour les relations préjudiciables, un terme qui n'est pas tout à fait clair. Plusieurs sanctions sont envisagées responsable pour toute infraction à la nouvelle directive allant jusqu'au congédiement, indique le lieutenant-général Paul Prévost en entrevue à Radio-Canada.
Merci beaucoup, Kat Bachand. On va faire des sports un petit peu plus complets un peu plus tard. On a déjà parlé en masse de cette défaite de 3-2 du Canadien en prolongation, mais vous dire que c'est jour d'ouverture locale pour les capitales de Québec au Stade Canucks face aux Miners de Sussex County. Fait qu'il annonce peut-être un petit peu de pluie aujourd'hui encore, là, mais ça devrait pas être dégueulasse non plus. Là. Fait que si vous voulez vous rendre au Stade Canucks ce soir, là, au pire, apportez un petit imperméable, ça devrait super bien, aller. Au retour de la pause, on se jase de ce fameux courriel d'Éric Girard envoyé à Christine Fréchette qui a fait la manchette dans les derniers jours. Puis là, ce qui fait réagir, c'est que Christine Fréchette, la première ministre du Québec, dit « on va trouver c'est qui a fait fuiter ce courriel-là dans les médias ». Puis je pense qu'il y a une discussion bien intéressante à avoir sur les lanceurs d'alerte qui, des fois, vont être punis plus que des gens qu'on devrait peut-être vraiment punir. Puis ça, ben, je pense pas que ce soit normal. 10h38 dans le Point de Max.
Le Point de Max. Avec...
dans le Point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quelqu'un dans ton entreprise qui fait quelque chose de tout croche, puis que toi, tu stoules cette personne-là, parce qu'elle a fait quelque chose de tout croche, ben peut-être que tu t'attends à ce que ce soit elle qui soit mise dehors, tu sais. Puis que finalement, c'est toi qui te fais mettre dehors parce que t'as stoulé à personne. Là, je dis pas que dans tous les cas, la personne qui stoule a nécessairement des bonnes raisons de le faire, puis que la personne qui est stoulée est nécessairement une personne tout croche. Mais ça fait une couple de fois dans les dernières années dans l'actualité qu'on a des histoires de lanceurs d'alerte où tu te dis, ben voyons donc, qu'au lieu de s'attaquer au problème, ben le premier réflexe, c'est de dire on va trouver la personne qui a stoulé. Il y avait une histoire récemment là, avec bière et frites.
Ouais.
La régie des alcools, la RACG, en fait, qui était là-dedans. Puis c'est une histoire, puis on va pas retomber là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais une histoire qui n'a pas de maudit bon sens, qui a été stoulée par quelqu'un.
C'était une fausse plainte qui avait été montée de toutes pièces pour essayer de piéger le restaurant qui n'était pas vraiment en défaut, puis que ça y a amené dans un dédale à ne plus finir. Puis quand ça a été confirmé au sein de la RACG qu'effectivement, c'était une fausse plainte, cette personne-là qui a dit la vérité a été congédié.
Alors que la personne qui était derrière la fausse plainte de mémoire avait comme été suspendue une journée. Là.
Ouais,
c'était ridicule. La personne avait raison avec avec l'alerte qu'elle a lancée.
Ouais.
Puis tu donnes une mini tape ses doigts à la personne qui a fait de quoi de tout croche, puis tu congédies la personne qui a stoulé alors qu'elle avait raison de le faire.
Ben il y a une autre histoire aussi là, qui date d'il y a quelques années, mais qui est quand même assez importante. C'était en 2019, quand on avait congédié Louis Robert, qui est un agronome renommé qui était au ministère de l'Agriculture. Lui avait dénoncé l'ingérence d'intérêts privés dans la recherche publique. Ça avait beaucoup marqué l'actualité, cette histoire-là. Mais lui, il disait la vérité. Il soulevait des points importants, puis on l'a tassé.
Puis là, sans être là-dedans, puis c'est là où je veux faire attention aux liens qu'on établit.
Mais qu'on n'a pas le choix de se poser la question quand on tient ce discours public-là.
Il y a une enquête qui est en cours.
Ouais.
Parce que du côté du clan de Christine Fréchette, notre première ministre, on veut savoir c'est qui a transmis le fameux courriel d'Éric Girard au journaliste. Courriel, c'est Radio-Canada qui le rapportait en fin de semaine, où Éric Girard, en gros, disait à Mme Fréchette « Depuis que vous êtes première ministre, vous dépensez beaucoup. Il faudrait peut-être vous calmer avec vos dépenses parce que les Québécois savent compter puis ils vont peut-être pas triper. » En gros, là, c'était à peu près ça. Puis là, je le dis dans mes mots pour faire mon drôle, mais ça ressemblait vraiment à ça. Ouais. « Christine, calme-toi, tu dépenses trop. » Et là, en entrevue à LCN, Christine Fréchette a indiqué qu'il y avait un événement similaire qui était arrivé dans un autre ministère et ça a mené à un congédiement. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que selon son cabinet, il y a quelques personnes à peine qui ont eu accès au courriel, dont les sous-ministres et les chefs de cabinet de Christine Fréchette et du ministre des Finances, Éric Girard. Donc, ce serait dans la garde très rapprochée. Donc là, on enquête là-dessus.
Mais on menace quand même publiquement que la personne qui a laissé couler ça pourrait perdre sa job. C'est ça qu'on est en train de dire.
Puis là, on peut ramener ça à bien des dossiers. Tu sais, Radio-Canada, ce matin, qui nous apprend que chez Santé Québec, ben là, il y a une autre histoire de dépassement de coûts puis de décisions qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de sens. Puis Radio-Canada, de mémoire, dans ce texte-là, a 5 sources qui ne sont pas autorisées à parler. Ben là, on va se mettre chez Santé Québec à faire des chasses puis des enquêtes pour trouver c'est qui ces sources-là. Puis là, quand mettons que le dossier, parce que dans le dossier santé numérique, là, il y avait aussi plusieurs sources, souvent chez Radio-Canada, qui parlaient.
Ouais.
On est-tu dans grosse enquête pour trouver c'est qui pour que les informations sortent le moins possible dans les médias? Parce qu'on a le droit de savoir ce qui se passe, là.
Puis l'autre affaire aussi qu'il y avait eu, c'était une enquête qui a été lancée au sein du ministère du Travail au sujet d'une fuite médiatique quant au projet de loi sur la transparence et la gouvernance syndicale. Ça aussi, c'était des gens, juste une petite garde rapprochée qui avait en possession les détails de ce projet de loi-là, puis ça avait été fuité dans les médias. Fait que là aussi, on a lancé une enquête.
Fait qu'on lance la réflexion. Moi, je suis content de savoir qu'Éric Girard, le ministre des Finances, a fait sa job et a écrit à Christine Fréchette de se calmer.
Absolument.
Moi, je suis content de le savoir en tant que citoyen, payeur de taxes. Pas énormément de taxes, mais je paye un peu de taxes quand même. je suis content de le savoir. Je suis bien content. Je suis content de savoir qu'il y a un autre projet informatique qui est en train de chier, puis j'aimerais ça qu'il n'y ait pas d'enquête nécessairement pour venir fermer la trappe à ceux qui se l'ouvrent, la trappe à Radio-Canada.
Puis ça me fait plaisir, moi, un peu, de savoir qu'il y a un ministre derrière les portes closes qui dit « Hey, les Québécois sont pas caves », alors que des fois, on a l'impression qu'on se fait prendre pour des épées.
Puis finalement, là, il est revenu sur ses paroles hier, puis
ça me surprend.
Il a commencé à dire tout le contraire.
Ça s'est jamais vu. Never happened. Brand new information.
La ligne de parti a vite embarqué dans le cas d'Éric Girard.
Ben
fait que je voulais absolument qu'on prenne 2 secondes. On lance la réflexion, puis on va continuer de suivre ça, puis on va voir est-ce qu'il va y avoir des congédiements. On va-tu le savoir, c'est qui la taupe?
On va le savoir.
L'autre dossier que je voulais qu'on aborde, puis en fait, c'est comme deux dossiers qui sont dans l'actualité ce matin. Puis on va commencer avec celui qui revient souvent puis qu'on est un peu écœuré de parler parce que c'est comme, ça revient toujours du pareil au même. Là,
justement, se faire prendre pour des épais, là?
Ouais. Okay. Le pont à étagement, coin Robert Bourassa, Le Bourgneuf.
Yes.
C'est dans le Journal de Québec ce matin qu'on a fait une entrevue avec la présidente du conseil de quartier de Le Bourgneuf, Lise Bilodeau. Puis en gros, elle dit qu'elle y croit plus, elle a perdu espoir. Mais là où je trouve que ça devient surtout intéressant, c'est ses propos par rapport à une discussion qui aurait eu lieu avec le conseiller municipal Maxime Elmalet la semaine passée. Ça a l'air que lui, la semaine passée, a dit que ça avait été mis de côté complètement puis qu'il n'a jamais parlé de possibilité que ça revienne. Ça, c'est un conseiller municipal de la ville de Québec. Alors que, sur nos ondes, la semaine passée, le ministre responsable de la capitale nationale, Jean-François Simard, nous disait ceci par rapport à une annonce sur un pont à étagement, Robert Bourassa, Le Bourgneuf.
Là, vous me tendez une perche, puis je me mords les lèvres, puis la langue qui va avec, parce que je ne veux pas aller trop loin, mais c'est un dossier qui relève du ministère du Transport. Je suis très optimiste, très, très, très optimiste qu'on puisse annoncer quelque chose d'intéressant sous peu.
Fait que ça veut dire qu'une couple d'affaires, premièrement, qu'il n'y a aucune communication entre la ville et le ministère des Transports ou même le gouvernement du Québec.
Ça dépend, parce que peut-être que Maxime Elmalet s'est fait dire par le ministère des Transports exactement ce que le ministère des Transports a dit dans les médias, que ça n'était plus une priorité. Peut-être qu'Elmalet, lui, s'est fait dire justement qu'il y a des discussions, puis s'est fait dire « c'est pas des priorités, ça n'arrivera pas ». Malgré le fait que Christine Fréchette s'était engagée à faire le pont d'étagement au coin Le Bourgneuf Robert Bourassa, pendant la campagne à la chefferie de la CAQ.
Et là, ça a l'air qu'on va avoir une annonce bientôt. Fait qu'alors que c'est plus d'impiété, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, il y a un conseil municipal qui rapportait un peu la même affaire de dire « Ouais, non, c'est plus d'impiété. » On a M. Simard qui disait sur nos ondes
« Hey,
ça s'en vient, une belle annonce, je me mords les lèvres puis la langue qui va avec. » Je pense que c'est ça qu'il a dit.
Là, vous me tendez une perche, puis je me mords les lèvres puis la langue qui va avec.
Bon, il se mordait les lèvres puis la langue qui allait avec. Là.
T'as-tu son rire aussi, pas loin de cette entrevue-là?
Je lui laisse le soin de vous répondre. Si vous voulez, je vous laisse son numéro de téléphone.
C'est ça. Jean-François Simard, très, très sympathique en entrevue, mais qui dit dans les dernières semaines pas mal une chose et son contraire concernant un pont d'étagement, Robert Bourassa, Le Bourgneuf. Fait que ce sera à suivre.
Mais l'affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'en vient dans une campagne électorale à l'automne. On va finir la session parlementaire, puis on se garde du juice pour quand on va revenir à la fin de l'été voter pour pouvoir vous inciter à voter pour le gouvernement de Christine Blanchet.
Puis en même temps, tu dis, on se garde du Joe. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est en train de le sortir là, pas mal. Là. Moi, d'après moi, cette annonce-là, c'est pas une histoire de mois, là. D'après moi, c'est dans gros max 2-3 semaines, on a annoncé quelque chose pour un pont d'étagement Robert Bourassa-Le Bourgneuf, un peu dans le même genre que Christine Fréchette, c'est chaque jour. Là, aujourd'hui, ce qui sort des médias, c'est l'histoire des boissons énergisantes. Fait que tu vas cocher une autre case. Là, hier, c'était ses annonces où elle vient nous redonner de l'argent qu'elle a pris dans nos poches, puis que nous autres, parce que ça nous donne... Le calcul qui a été fait par la Fédération canadienne des contribuables, de mémoire, c'est 97 sous par jour que ça va mettre en moyenne dans nos poches. Puis avec ça, elle va se chercher probablement des milliers de votes, aussi triste que ce soit. Mais c'est ça la réalité, pareil. Et là, l'autre dossier, pour rester sur le réseau routier de la capitale, puis là, littéralement de la capitale, c'est qu'on va tout refaire ça, l'autoroute de la capitale. J'ai hâte de voir comment on va s'y prendre, mais ce que Radio-Canada nous apprend ce matin, c'est qu'il y a un bout qu'on juge...
Un tronçon qui est jugé problématique entre Henri IV et Armand Paris à Beauport.
On dit que c'est un dysfonctionnement chronique. En gros, c'est la capitale au grand complet. Là. C'est le bout qui est jammé chaque jour entre Henri IV puis c'est ça, Armand Paris qui est aussi, mettons, dans le coin de Seigneurial. Je pense que Seigneurial va peut-être plus dire de quoi au monde. Là. C'est ce bout-là de la capitale. Et puis.
On dit que ça. Tu sais, faut comprendre aussi. Mettons que je donne un peu le bénéfice du doute, là. Ça fait plus de 50 ans que ça a été construit, cet endroit-là, fait que ça n'avait pas été nécessairement pensé pour tout le développement qu'on a eu autour de
c'est
ça.
Clair.
Ce n'est pas conçu pour l'achalandage qu'on a aujourd'hui. Je vous rappelle que dans les années 70, on pensait qu'à l'an 2000, les chars allaient voler. il y a des scénarios là, qu'on prévoit.
Oui, puis on dit que c'est un projet de refonte qui va inclure la mise à niveau des infrastructures, la régularisation du nombre de voies de base, l'épuration du nombre d'entrées et de sorties et l'élimination de zones de conflit. Ce que Radio-Canada nous dit, c'est mais dans le document d'appel d'offres, il n'y a pas de description détaillée des scénarios à l'étude, il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de coût pour la réalisation des travaux. Puis ce matin, avec les gars, on s'amusait un peu à dire, là, ils refont l'élargissement de la 20 à Lévis là, pour 10 km. C'est quoi, c'est 4-6 ans, ça prend? Pour 10 km. Alors, faire la capitale, puis on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va comprendre. Là, on est dans le début. On commence à penser au scénario, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Dans combien de temps on va voir ça?
15, Seigneur.
20, 25 ans? T'as le temps, la ville de Québec a le temps de rechanger au grand complet. Là.
Mais tu sais, Max, je sais que toi, tu n'as pas de voiture, puis les auditeurs pourront nous texter. Moi, la capitale, depuis un bon moment, j'évite. Capitale, notamment parce qu'il y a des travaux là, qui ont été effectués là, dans le secteur à peu près à la hauteur de Lormière, Saint-Jacques, tout ça. Là, fait que ça, c'était très, très, très compliqué jusqu'à la bretelle d'accès qui nous mène vers Henri IV. Et à chaque fois que Waze me dit qu'il faut que je passe sur Capitale, je suis surprise. Parce qu'il m'envoie même plus là, jamais. J'évite cet endroit-là parce que peu importe le moment du jour... de la semaine, de la fin de semaine, à chaque fois qu'il faut que tu passes sur de la capitale, c'est tout le temps, jamais.
Quand t'es rendu avec un trafic régulier,
c'est ça, les auditeurs textent, même la fin de semaine, absolument,
c'est qu'un problème. Puis, tu sais, d'un autre côté, je me dis, OK, parfait, là, on a des... Comment tu règles ça? Il y a trop de monde sur la capitale. J'ai hâte de voir les scénarios, c'est pour ça que je suis un peu déçu qu'on les ait pas. Là, puis probablement que des prochaines semaines, ça va finir par sortir dans un média ou dans un autre. Là. Mais j'ai hâte de voir c'est quoi les idées. Je suis pas ingénieur, je suis pas urbaniste, je suis rien de ça. Là.
Ouais.
Qu'est-ce que tu peux faire? T'ajoutes une autre voie, t'ajoutes que là, Catherine Dorion te dirait ouais, mais là, c'est des lignes de poudre, puis plus t'en ajoutes, plus tu vas avoir de trafic là, pour reprendre son image.
Je sais pas. Écoute, il y a des gens qui sont allés à l'école pendant des années là, pour être capables de se faire une tête là-dessus. Je suis pas ingénieur, puis je peux pas te le dire c'est quoi, mais tu sais, il y a quelqu'un qui dit quand tu es arrivé à Québec à milieu des années 70, il y avait rien au nord de la capitale. Puis c'est vrai, ça fait pas si longtemps que ça. Là, moi, je suis arrivée au début du millénaire ici à Québec. Ça débouchait même pas là, au bord des galeries.
Ah oui, hein?
Le Robert Bourassa, là, ça s'appelait Duvallon dans le temps, là, puis ça arrêtait aux galeries. Fait que toute cette portion-là, là, ça a tout été monde, développé là. Dans les dernières décennies. Là. Fait que effectivement, c'est vraiment très, très problématique. Fait que c'est pas comme si tu pouvais élargir plus que ça non plus, parce que là, tu as des commerces tout le tour de chaque côté.
Ce matin, une option qu'on regardait, parce que tu sais, quand la capitale va pogner Henri IV, t'as encore de l'autre bord un bout où ils n'ont rien bâti.
Oui.
C'est comme du vide ou des petits boisés où est-ce que tu pourrais venir poursuivre la capitale là-dessus?
Ça,
comme
c'est dans
ça,
les projets depuis des années pour éviter le détour via
exact.
Henri IV. C'est supposé aller pogner la 40 plus loin de l'autre bord de l'aéroport.
Fait que ça, j'imagine que c'est un des scénarios explorés. Sinon, pour moi, ils n'ont pas bien fait leur job, là, parce que c'est comme le premier qui vient en tête. Là.
Oui, sauf que c'est pas là qu'est l'enjeu.
Ben, c'est ça,
l'enjeu,
l'affaire.
C'est entre Henri IV et Beauport.
Ça réglerait pas.
Fait que c'est pas à l'ouest d'Henri IV.
Ça réglerait pas tout, c'est
non,
sûr.
Non, c'est ça.
Bref, à suivre. Il y a plusieurs textos qui rentrent au 88-971-1021. Le problème, c'est l'échangeur avec Laurentienne et Pierre Bertrand. Dans les deux sens, ça refoule à partir de là et ça roule une fois dépassé. J'habitais à Beauport, je travaillais à Vanier il y a plus de 25 ans. Fallait que je parte avant 7h puis je revienne à 16h pour être OK, donc c'est pas nouveau.
Non.
J'habite dans le Bourgneuf, je travaille à Beauport. Pas tant le choix de prendre la capitale. C'est un clusterfuck.
Un clusterfuck.
Un clusterfuck, j'aime donc bien ce mot-là.
Ouais,
équivalent à métropolitaine à Montréal. Catou est. Catherine Dorion, tu parles. Je pensais que tu parlais de Kat Bachan. Non, oui, en effet, j'ai vu le post de Catherine Dorion sur Mathieu Bocoté. Salut Kat, je prends capital à tous les jours pour revenir chez moi du travail. Il n'y a pas plus de trafic qu'avant en semaine. Tu attends, mais je trouve que ça va bien en général. Une fois rendu à Laurentien, ça roule bien. C'est mieux que Robert Bourassa, je trouve. J'habite à Saint-Émile.
Ouais,
ça dépend des heures de la journée. Puis si t'es du bon bord au bon moment, ça peut bien aller.
Je veux juste terminer avant qu'on se laisse, Max. Il y a des veilles d'orages violents avec des risques de tornades qui sont en vigueur sur la capitale nationale pour cet après-midi. Soyez prudents, mes chers amis.
Tabarouette,
tout simplement.
Rafale, des orages, de la grêle, tabarouette.
Ouais.
Risque de tornade.
Oui.
C'est quasiment excitant, mais soyez prudents. Merci beaucoup, Kat.
Merci, Max.
Au retour, l'open mic avec Audrey Pinchot. Le point de Max avec Max. Oh que oui, bienvenue ou re-bienvenue dans le Point de Max à Boulevard 102-1, 11h03 sous le soleil à Québec. Ça, c'est pour là, parce que c'est 19 degrés, en tout cas dans le Bourgneuf, fait super beau. Mais dans les dernières minutes, il y a une veille d'orage violent qui est entrée cet après-midi et ce soir. Les conditions qui sont propices, nous dit-on, à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. Et il y a aussi un risque de tornade, nous dit-on, via Environnement Canada avec ces orages-là. Tout va bien. Des pannes de courant sont possibles par endroit, nous dit-on. Donc, veille d'orage violent à Québec pour cet après-midi et ce soir avec risque de tornade. 88-971-1021, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. N'hésitez pas à le faire, notamment s'il se passe quelque chose sur les routes présentement. C'est dans le coin de Taniata, sur la 20 ouest, où il y a un ralentissement. C'est les travaux dans ce coin-là qui, pas mal tout le temps, causent des problèmes. Fait que rien de trop anormal. Vous pouvez nous écouter sur le blvd.fm, l'application mobile Boulevard 102.1, vos haut-parleurs intelligent à la maison et les bonnes vieilles ondes FM, évidemment. Autre défaite de 3-2 hier en prolongation pour le Canadien permettant aux Hurricanes de prendre les devants 2-1 dans la série. Le CH qui a encore une fois été surclassé violemment au chapitre des tirs à hauteur de 38 contre 13. L'ailier Andrei Svechnikov qui a mis fin au débat en temps supplémentaire. Le match numéro 4 qui sera disputé demain 20h au Centre Bell. Et d'ailleurs, Boulevard 102-1 et Chaloux envoient un auditeur à ce match-là de demain 20h. Et il vous reste encore des occasions de ramasser des indices pour potentiellement être notre gagnant qui sera dévoilé ce soir à 17h. Il en reste deux, des indices. Midi, dans On en jase avec Jeff. 16h dans Gravel dans le retour. Vous prenez ces indices-là puis vous vous inscrivez au blvd.fm sur la page concours et le gagnant de sa paire de billets pour le match 4 sera annoncé, comme je vous le disais, dans Gravel dans le retour à 17h. Fait que restez pas loin de votre téléphone. Concours en collaboration avec Chaloux, le paradis de la bière à Québec, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Cath. Audrey Pinchot, salut.
Bon matin.
As-tu fait la game au complet hier?
Non. Et hey, puis, sérieusement, j'ai pas le choix de te dire que moi, 8 heures, définitivement, c'est vraiment trop tard.
Ouais.
Je l'ai commencé, j'étais sur le divan, j'étais relax, mais honnêtement, j'ai somnolé la troisième période, puis j'ai pas vu la fin.
OK. Moi déjà, le 20 heures, c'est comme limite, mais là, la prolongation...
Tu te lèves tôt, en plus, hein?
Ah, j'ai dormi en bas de 4 heures, là.
Ah, wesh.
Ouais. Et là, je voyais la prolongation, puis là, j'ai beau me dire, après à 3... Je pourrais aller me coucher voir le résultat. Oublie ça, là.
Mais non, c'est sûr.
Parce que je pourrais même pas m'endormir. Je serais dans mon lit, puis là, je retournerais checker mon sel aux 3 minutes pour
mais
voir.
Mais je me déçois. Je me déçois parce que je
t'es
commence
pas une vraie.
À. Ben non, mais je commence à perdre espoir. Je pense que je suis une vraie des séries jusqu'à maintenant, mais je sais pas. Je commence à perdre un peu l'espoir d'une possible victoire vers une finale. Puis on dirait que ça. Quand je commence à m'endormir puis que je vois que ça va pas nécessairement de notre côté ou que j'ai un mauvais feeling, c'est comme si je décroche un peu plus. Puis c'est là que tu vois qu'effectivement, je suis pas la plus grande fan de hockey à la base. Moi, je regarde pas les games en saison régulière. Je suis vraiment une. Je suis là pour l'événement.
Oui. Hein,
c'est ça. Fait que non, non, je me suis déçue. Puis tu vois, en même temps, ce matin, j'étais contente parce que je me suis dit, je me serais couchée en maudit puis trop tard. Fait que, au moins, j'ai bien dormi.
Ben ça, je me disais, OK, c'est beau la prolongation, je vais vivre avec, mais on est mieux de gagner. C'est mieux de finir vite. Là, finalement, ça a relativement fini vite, mais on n'a pas gagné. Fait que j'étais un petit peu déçu. Puis en effet, je commence à plus vraiment y croire.
Ah ouais, toi aussi? Hey, non, ça, c'est pas bon, là.
Ouais, ça va être tough. Mais en même temps, tu peux voir ça. Le Canadien, en ce moment, là, est à 2 tirs dans cette série-là de mener la série 3-0. Là.
Ouais.
Tu sais, on tire pas beaucoup, mais on est à 2 tirs. Tu scores un but sur un tir.
Ah, mais c'est serré, t'sais. Là. Je peux pas dire qu'on est pourri. Là.
Ben non,
on traîne pas de la patte, ça va bien.
Ben,
là.
On traîne la patte.
Ben, moi, je trouve que pour où on s'est rendu jusqu'à maintenant... On va bien. Je suis surprise. Là. Moi, je pensais même pas qu'on en gagnerait une à date contre les Hurricanes. Le fait que je dis,
c'est ça.
Mon espoir à ce niveau-là, c'est juste que j'ai l'impression qu'on met pas le petit effort de plus. Je veux dire, je peux pas aller compter des buts.
Je pense que les gars sont maganés aussi. Là.
Ben, sûrement. C'est sûr que ça rentre.
Mais bref, c'est l'heure de l'open mic.
Oui.
L'open mic avec Audrey Pêche. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Aujourd'hui, Max, l'open mic prend son sens. Puis autant que c'est des moments, des fois, que je trouve difficiles parce que t'entends des histoires qui sont tristes, qui sont plates, qu'on doit dénoncer, autant que je sens que, justement, on sert à quelque chose.
Mm-hmm.
On parle aujourd'hui avec Lisanne Masson, fille de Simone Pellerin, qui est une femme de 80 ans, qui est atteinte de démence, qui a commencé aux alentours de 55 ans. Lisanne vient nous parler aujourd'hui pour dénoncer, je veux dire, les zones grises qui concernent les demandes de soins palliatifs exclusifs, la fin de vie, bref, OK? Fait que c'est un sujet qui est quand même très délicat, mais profondément humain, qu'on a tous vécu de près ou de loin. La fin de vie, justement, la dignité, j'ai envie de dire, ça entre là-dedans. Les zones grises, justement, du système de santé quand survient une démence très avancée. Ce que je trouve spécial dans cette histoire-là, c'est que je crois comprendre que les souhaits étaient clairs quand la démence n'était pas encore avancée. C'est là où je ne comprends pas comment notre système de santé... ne prend pas en considération cette information-là. Donc, c'est un dossier qui soulève beaucoup de questions éthiques et médico-légales. Puis 88-971-1021, peut-être vous avez des histoires semblables, des choses à ajouter sur ce qu'on va discuter aujourd'hui, parce que à partir de quand les soins deviennent de l'acharnement? Comment tu interprètes le consentement chez une personne qui est atteinte de démence sévère? Dans ce cas-ci, on avait déjà ce consentement-là, de ce que je comprends. Les volontés exprimées, justement, est-ce qu'ils sont réellement respectées? T'sais, beaucoup de questions à prendre en compte. Lisanne, bon matin.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de venir partager ton histoire avec nous ce matin. J'ai envie, avant qu'on entre dans ce volet-là qui est peut-être un peu plus triste, actuel, un peu plus décourageant, qu'on parle de Simone, qu'on parle de ta maman avant la maladie, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. Là. Avant, c'était une femme qui avait probablement une personnalité super pétillante, qui avait des activités, qui avait son quotidien, puis qui avait des désirs pour sa fin de vie, puis là, on est malheureusement au moment où ils sont pas respectés. Fait qui était Simone?
Bien, Simone, c'était une femme très fière, une femme très engagée. Ses principales qualités, là, c'était une intellectuelle. Elle avait une mémoire phénoménale. Elle était toujours dévouée pour une cause. Elle a réclamé, tu sais, dans ses années à elle, beaucoup sur le droit de la femme, le respect de la personne. Donc, c'était une personne très engagée qui avait des convictions. C'est quelqu'un qui a affirmé toute sa vie ne pas vouloir se voir dégénérer comme ça. Puis, elle vantait les personnes âgées qui avaient des belles fins de vie, comme sa propre mère a eu. Elle était vraiment très fière de ces gens-là, mais exprimait clairement qu'elle n'aurait pas voulu se voir dépérir.
Oui, puis j'ai l'impression qu'on est une gang à penser comme ça. Qui veut ça, en fait? C'est plus ça la question, là.
Exactement. Quand je vais la visiter puis que je regarde les gens autour d'elle, des fois, je me questionne justement, ils étaient qui, ces gens-là?
Oui.
Parce qu'en ce moment, ils ne se ressemblent pas. Puis ma mère, physiquement, elle ne se ressemble plus non plus.
Les volontés, quand elle parlait justement de fin de vie, bon, sont claires, elle ne voulait pas se rendre là. Quand est-ce qu'on a commencé à avoir les premiers signes de démence? Tu m'as envoyé aux alentours de 55 ans. C'était quoi ces signes-là?
Mais à ce moment-là, c'était seulement des pertes de mémoire. T'sais, on parlait de la retraite, elle devait répéter beaucoup les informations qu'elle recevait. C'était plus ses chums proches qui avaient commencé à le remarquer.
C'était plus anodin un peu, là.
Oui, c'est ça. Ça commence insidieusement comme ça, puis tranquillement, des pertes de mémoire, on voit qu'il y a un petit peu d'agressivité qui s'installe quand on la reprend, qu'on répète. Ça, c'est des bouts qui sont difficiles. Là. Les familles qui savent de quoi je parle, là, on sait que ces bouts-là sont très, très exigeants pour les proches. Parce que la personne, elle, ne se rend pas nécessairement compte qu'on est en train de répéter. La personne ne comprend pas pourquoi nous, on devient un peu impatient de répéter. Et dans la maladie, ben, il y a une forme d'agressivité qui se développe à cause de la maladie, mais à cause de cette souffrance-là aussi. T'sais, on ne sait pas trop l'œuf ou la poule.
Mais oui,
ça, c'est des années très, très souffrantes. Où est-ce qu'elle est consciente de ce qui se passe, qu'elle le refuse, qu'elle le dénie, qu'il y a tous les temps. Puis ensuite, ben, ça dégénère un peu plus physiquement.
Pourquoi c'est important de raconter ton histoire publiquement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recherches de ça?
En fait, on va aboutir à ce que, en ce moment, le conseil de tutelle de Simone, parce qu'on est sous curatelle privée, nous, on a écrit une lettre et on a fait une demande de soins palliatifs exclusifs parce qu'on considère que les soins que Simone reçoit, ce sont des excellents soins. Le personnel, là, je veux juste le dire tout de suite, le personnel est génial, c'est des humains extraordinaires. Oui. Elle reçoit des bons soins.
C'est juste plus adapté à sa situation.
À sa situation, à elle, parce qu'on ne comprend pas le but de maintenir en vie des gens qui ne le souhaitent pas. Il y a beaucoup d'argent, tu sais, outre la partie là, émotionnelle, là, c'est ma mère, là. Mais il y a un investissement de ressources dans notre système de santé qui est mis à garder en vie des humains qui ne le souhaitent pas.
C'est malheureux, mais ce sont des questions qu'on doit se poser avec une population vieillissante, avec
Absolument.
Les conditions de notre système de santé. Puis je trouve ça, je ne sais pas si rassurant est le bon mot, intéressant d'avoir une fille de maman dans cet état-là qui est capable justement d'en parler en se détachant un peu de la situation, parce que c'est pour la dignité de notre proche, mais c'est aussi justement au niveau sociétal que c'est un problème.
Exactement, c'est ça l'enjeu. Pourquoi je suis ici, c'est que nous, notre demande de soins palliatifs exclusifs a été refusée. On pourra y revenir, là, plus les détails de la situation de ma mère et puis tout ça. Mais moi, ce que je dénonce, c'est qu'on me demande d'aller en cours et de poursuivre l'établissement qui est le CIUS. Donc, c'est énorme. Moi, je serais prête à faire la démarche pour ma mère. Peut-être qu'elle n'en bénéficiera pas parce que ça va être long et ça va être coûteux. Je serais prête à le faire pour le bénéfice des autres. Ça me ferait plaisir et Simone serait fière d'être l'ambassadrice des droits de la personne en fin de vie, de la dignité, etc. Par contre, je suis contre le fait que c'est contre l'efficacité du système. Nos fonctionnaires qui vont perdre du temps en cours contre moi, mais ils ne sont pas en train d'améliorer notre système. C'est un mauvais investissement de ressources de m'amener en cours, alors qu'il y a déjà des définitions, des choses qui sont discutables, comme par exemple dans la loi concernant les soins en fin de vie. Il y a toutes sortes de phrases que j'ai devant moi ici où est-ce qu'on pourrait discuter. Ce que nous, on demande de cesser les soins et de mettre ma mère en soins palliatifs exclusifs, ça s'est déjà fait. Fait qu'il y a une question d'ouverture d'esprit de l'équipe traitante. Donc, en ce moment, on nous refuse le soin. On nous dit que l'établissement a l'obligation de prodiguer des soins de base. Ils disent qu'ils ont l'obligation de respecter l'acceptation des soins et de tolérer les refus. Mais ma mère, elle est dans un état présentement où est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'elle accepte ou qu'elle refuse, on est plus dans un état de réflexe.
Oui, on n'est plus là, là. Puis le pire, puis c'est triste que je vais dire, mais probablement que même le personnel voudrait donc bien adhérer à votre demande, mais c'est une affaire de système. Puis tu dis, Lisanne, je serais prête là, à aller au combat puis à le faire pour ma mère, mais me dire que moi, humainement, là, avec un recul, je trouve ça quand même épouvantable d'imposer ça à une famille qui doit déjà vivre avec la situation dans laquelle vous vivez. T'as le courage de venir ici ce matin, t'as le courage d'en parler puis de le faire pour ta mère, mais je veux dire, combien de personnes ne seraient pas capables de le faire? Puis en passant, c'est pas un désaveu, c'est vraiment juste de dire, c'est déjà assez difficile, Colin, tu sais que ta mère est en fin de vie, c'est un être proche, c'est un être cher, la démence, c'est pas facile d'être proche aidant, c'est tout ça qui entre en compte aussi. Là. L'état actuel de Simone, c'est quoi?
L'état actuel de Simone, encore là, avec tout le respect que j'ai pour ma mère, on pourrait la comparer un peu à une plante verte, malheureusement. Elle se fait lever par un lève-patient de son lit, on la transfère dans un fauteuil roulant, on l'habille, on lui sert une purée, donc on appuie une cuillère sur ses lèvres et elle ouvre la bouche pour l'avaler et c'est ce qu'on dit qu'elle accepte la nourriture. Je considère que c'est plus un réflexe.
Mais oui, voyons.
Lorsqu'on l'habille, qu'on la lave, qu'on la peigne, elle était très agressive, elle jurait, alors que c'était quelqu'un qui parlait, c'était pas son genre. On lui a donné des médicaments pour contrôler son agressivité. Donc, l'équipe va nous dire qu'elle accepte ces soins de base-là parce que maintenant, la médication contrôle l'agressivité. Donc, elle a les yeux clos toute la journée. Quand elle les ouvre, on le sait qu'elle ne nous voit pas, même si on est très proche d'elle. Elle bavarde occasionnellement toute seule. On ne comprend pas trop le fil de ses pensées, donc on n'est pas capable de suivre. Des fois, elle répond au bon moment quand on pose une question, mais est-ce que c'est un hasard, tu sais, de nous exprimer qu'elle a une douleur, qu'elle soit physique, qu'elle est consciente de ça puis qu'elle en souffre? On ne le sait pas. Elle ne peut pas nous l'exprimer. Mmh. Ce qu'on sait, c'est qu'avant d'être là, par contre, elle a tout refusé. Tant qu'elle était capable, même à domicile, pour assister mon père, on essayait de rentrer des préposés, elle a tout refusé. Elle préférait le décès que de se rendre à ce genre d'assistance-là.
Puis comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un papier qui signe dans ce temps-là? Est-ce que, tu sais, quand on demande l'aide médicale à mourir, là, ils disent que tu as un papier à signer, justement, puis je sais pas comment ça fonctionne, je me suis pas retrouvée dans cette situation-là. Mais je me dis, si elle refuse, elle refuse, elle refuse, c'est pas ça qui manque, peut-être, le moment où tu... Tu sais, on signe, là, pour le don d'organes.
Oui.
Il y aurait pas moyen de faire la même affaire pour ce qui est des soins de fin de vie?
Il y a deux choses là-dedans, c'est que la loi sur l'aide médicale à mourir, elle n'était pas passée dans le temps que ma mère, elle était encore considérée apte, donc elle était lucide. Donc, elle n'a pas pu faire ce qu'on appelle maintenant une demande anticipée.
Okay.
Donc ça, c'est une belle amélioration, ça existe. Par contre, Simone, elle ne peut pas en bénéficier comme beaucoup de monde dans sa situation.
Elle tombe entre deux craques de chaise.
Oui. Exactement. Ou si la personne, du moment qu'elle n'est pas encore déclarée inapte, si elle n'a pas fait une demande anticipée, bien, elle n'y aura plus accès à partir du moment qu'elle est considérée inapte. Mmh. Donc ça, c'est pour l'aide médicale à mourir. Ça, c'est demandé comme l'euthanasie. Ça n'existait pas avant, maintenant, ça l'existe. Par contre, un soin palliatif, c'est juste d'arrêter les traitements curatifs et tout ce qui maintient la personne en vie. Puis dans le cas de ma mère, on peut dire artificiellement en vie parce qu'elle ne trouve aucun bénéfice, aucune jouissance, elle n'a plus de qualité de vie. C'est très souffrant pour elle, si elle peut s'en rendre compte, et c'est très souffrant pour nous, ses
évidemment
proches.
Est-ce que tu sais si, mettons, si elle avait signé un genre de papier il y a plusieurs années, si ça aurait pu aider dans la situation ou bien si c'est tellement en ce moment dans un genre de, justement, de creux où on ne sait pas trop concernant cette situation-là et non l'aide médicale à mourir, que ça aurait comme rien donné?
Bien, en fait, j'ai devant moi un mandat en cas d'inaptitude qu'elle avait signé en 2008 alors qu'elle était encore tout à fait apte à le faire. Et elle écrit de sa main qu'elle préfère le décès plutôt que la vie avec des séquelles ou des restrictions majeures. Elle l'a écrit, je l'ai devant moi ici.
Avec signature.
C'est pas assez.
Oui. Et ce n'est pas assez pour l'équipe traitante en place. Peut-être que d'autres médecins l'accepteraient. En fait, en ce moment, bien, si on va en cours, c'est un très gros argument parce que n'importe à quel avocat va vous le dire, elle l'a signé de sa main. C'est sa demande. On se doit de le respecter.
Mais ça, le personnel peut pas le prendre en compte. Comment les médecins ont réagi à votre demande? Comment, en fait, est-ce que vous sentez que les professionnels comprennent votre point de vue humainement?
Humainement, je peux dire que oui, il y a une certaine compréhension, mais ça a été difficile. Une autre chose que j'ai envie de dénoncer à travers ça, c'était justement la difficulté de communiquer avec l'équipe traitante. Moi, j'ai commencé mes démarches il y a plusieurs mois. À ce moment-là, on m'a dit que je ne pouvais pas rencontrer le médecin. J'ai fait mes devoirs et j'ai trouvé un article légal qui me dit qu'un patient en CHSLD a toujours le droit de communiquer avec son médecin et ses représentants si le patient est inapte. Donc, ce n'est pas vrai que je n'ai pas le droit de parler au médecin. Ensuite, on m'a refusé une rencontre, alors que dans le même article de loi, on dit qu'une rencontre avec l'équipe multidisciplinaire ne peut pas être refusée à la famille. Donc là, on m'empêche de parler au médecin, ça prend des semaines. J'ai fini par passer par une adjointe administrative, écrire une lettre.
Mon Dieu, Seigneur.
Parce qu'on ne voulait pas me donner de rendez-vous ni me prêter le téléphone.
On vous rend la vie difficile sur un méchant temps, là.
Oui, et puis je trouve ça incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi ça a lieu.
Puis c'est surtout qu'à un certain point, ce que je trouve plate, c'est que la seule façon de s'en sortir, visiblement, c'est d'amener le judiciaire là-dedans. Mais ça va vous coûter des sous. Vous êtes déjà brûlé émotionnellement. J'ai comme de la misère à comprendre qu'on saisit pas ça. Puis pourtant, c'est logique, là. Comment? Parce que vous avez l'air assez solide, là. Je veux dire, toi, en soi, Lisanne, là, j'ai pas le choix de te le dire. T'es toute là, mais pour le conseil de tutelle dont tu me parles, la famille, là, comment ça réagit? Comment ça se sent?
Bien, c'est sûr que, étant infirmière, j'ai peut-être une conscience professionnelle puis une capacité à gérer cette partie-là qui serait plus émotive si j'étais pas dans le domaine de la santé. Mmh. Fait que oui, je représente ces gens-là qui, eux, émotionnellement, le vivent très, très, très difficilement. Puis tu sais, je dis ça, mais chaque fois que je vais visiter ma mère, j'ai le moton dans l'auto avant d'y aller. Puis je m'effondre en larmes à chaque fois. La dernière fois, ça a été dans l'ascenseur, sinon c'est dans l'auto. Des fois, c'est dans la chambre. La partie humaine, la partie qui concerne ma mère, de la voir comme ça, mm-hmm. c'est éprouvant. Mon père, qui n'est pas un homme qui pleure de sa génération, ça ne pleurait pas.
Mais oui,
il me l'a avoué qu'à chaque fois qu'il va la visiter, même si c'est à chaque semaine, il ne s'y fait pas et il s'effondre dans la voiture à chaque fois qu'il sort de là.
Oh mon Dieu, ouais. J'ai envie, Lisanne, parce que je vois le temps passer, puis la situation est très claire. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager avant qu'on se laisse, dans toutes tes démarches, dans tout ce que tu veux transmettre comme message? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter?
Bien, en fait, nous, on aurait fait cette demande-là bien avant si on l'avait su. Il y a un concours de circonstances qui fait que là, j'ai eu des discussions avec des médecins de soins palliatifs, des avocats, et le concours de circonstances a fait que j'ai découvert que je pouvais faire la demande. Donc, ce que je voudrais dire aux familles qui souffrent, qui ont l'impression de vivre un acharnement, que ce que les proches vivent, c'est plus une torture qu'une assistance mm-hmm. médicale, mais ils ont premièrement le droit de parler à l'équipe traitante et ils ont le droit de faire des demandes de soins palliatifs.
On n'est pas au courant de ces choses-là. Et on souhaite que ça fasse son bout de chemin. Vraiment, bon courage. Puis merci d'avoir pris le temps ce matin. J'ai l'impression que tu es la voix de plusieurs dans cette situation-là.
Malheureusement. Merci à vous.
Au retour, Nathan Meilleur pour sa chronique du jour et les nouvelles avec Mathias Turcotte. On fait aussi un petit tour de sport et vous rappeler, parce que ça date d'il y a quelques minutes, là, mais veille d'orage violent à Québec cet après-midi, ce soir. Les conditions sont propices, nous dit Environnement Canada, à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. Et il y a aussi un risque de tornade avec les orages. 11h24 dans le Point de Max.
L'Open Mic avec Audrey.
11h30, ben pile, dans le Point de Max à Boulevard 102-1-418-971-102-1, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Ça paraît pas pantoute, mais parce que là, dans le Bourgneuf, là, le ciel est bleu, il y a quelques nuages, il fait beau, il fait soleil, mais dans les prochaines heures, on est en veille d'orage violent. On nous dit que cet après-midi et ce soir, les conditions sont propices à la formation d'orages violents, pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. Et il y a aussi un risque de tornade, nous dit Environnement Canada. Des pannes de courant qui sont donc possibles par endroit. Fait que mettez-vous à l'abri.
On va profiter de la température.
Ouais, non, c'est ça. Fait que non, je niaise en disant mettez-vous à l'abri, là, mais on ne sait pas quand ça va frapper. Puis de ce qu'on comprend, quand ça va frapper vite et ça va frapper assez fort. Donc, dans la région de Québec, veille d'orage violent, soyez prudents, les amis, notamment si vous êtes sur les routes, là, quand ça va commencer à tomber. On sait que des fois, ça peut ne pas être évident. Soyez prudents. Sur la route, d'ailleurs, présentement, tout a l'air beau. S'il y a quoi que ce soit, 88 971 102 1 par texto. Je vais vous parler avant le bulletin de nouvelles avec Mathias de la Société Alzheimer de Québec qui va tenir la marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine ce dimanche 31 mai dès 9h30 et à date, il annonce relativement beau pour cette journée-là, fait que ça devrait être pas pire pantoute. L'événement qui aura lieu à la maison O'Neill, c'est une belle occasion de se rassembler pour soutenir les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs ainsi que leurs proches. Cette année, l'inscription qui coûte un petit 40$. Vous pouvez choisir la marche de 2,5 km, la course de 4 km ou la course de 400 mètres pour enfants. Moi, c'est celle-là que je vais faire. Il y aura aussi jeux gonflables, barbecue, maquillage pour enfants. Moi, c'est ça que je vais faire. Mascotte sur place et plus encore. Notre escouade Boulevard qui sera sur place avec notre animateur Nathan Meilleur pour encourager les marcheurs. Les dons amassés qui sont essentiels pour soutenir, former, informer toute personne concernée par la maladie d'Alzheimer et offrir du répit aux prochains aidants. Pour vous inscrire ou faire un don, visitez lealzheimer.ca. Mathias Turcotte, dans les prochaines minutes, on pourra jaser du match canadien d'hier, là, quelques minutes, parce que je sais que tu as hâte là, d'en parler, mais avant, il faut manger nos légumes avant de passer au dessert. Les nouvelles.
Oui, et une nouvelle qui est sortie il y a de cela quelques minutes à peine.
C'est tout chaud.
C'est dans la presse. Stephen Guilbeault, ancien ministre de l'Environnement du côté du Parti libéral, envisagerait de démissionner.
Ah ouais?
Du caucus libéral. La décision n'a pas encore été prise à 100% selon les informations qui nous sont transmises, mais c'est quatre sources du gouvernement fédéral directement qui ont soutenu ces propos, qui ont dit ces propos-là là, à la chaîne anglophone CTV News. On sait depuis quelques semaines, il y a plusieurs frustrations chez Stephen Guilbeault concernant les décisions environnementales prises par Mark Carney. On a abandonné plusieurs mesures qui ont été mis en place sous le gouvernement Trudeau. On a fait une entente d'oléoduc avec l'Alberta également, puis ça faisait pas son affaire. Il était très bruyant dans les médias.
C'est qu'à un moment donné, ça devenait comme...
Ça malaisant.
Devenait malaisant, ouais. Étrange, qu'il reste là. Puis une couple de fois, il a planté Mark Carney puis ses prises de position sur des dossiers environnementaux au point où tu disais, OK, là, je comprends que tu veux rester dans la gang, mais c'est parce que si tu as un minimum de valeur, tu vas partir. Là.
La contradiction a ses limites. Là. Pour moi, ouais. Si tu es pro-environnement puis c'est ta priorité... Le gouvernement Carney, c'en est pas un pro-environnement, il faut être honnête.
Maintenant, j'ai hâte de voir, puis on va attendre que ce soit officialisé, mais il y en a-tu d'autres qui vont suivre? Parce que la semaine passée...
C'est une quinzaine de députés qui ont envoyé une lettre à Mark Carney.
Fait que là, il y en a-tu là-dedans qui vont suivre en disant « Ouais, non, là, le niveau environnement, c'est parce que ça suit plus pas en toutes mes valeurs. » Tu sais, Serge écrit « Hey, il était temps, je le trouvais sans colonne. » En effet, tu dis « Hey, je vais quitter mon poste de ministre, mais je vais rester député. » Ouais, mais c'est parce que tu restes dans l'équipe, tu continues d'appuyer ton chef, même si tu le plantes dans les médias de temps en temps, le piquant, puis là, lui, il te met pas dehors parce qu'il a besoin de toi et parce que sa majorité est serrée. Fait que j'ai hâte de voir cette game-là, comment ça va jouer dans les prochains jours.
Mais Annie Joly a été appelée à réagir aujourd'hui. Elle a affirmé être une bonne amie de Stephen, mais qu'au vu des circonstances, on n'avait pas le choix de prendre certaines décisions qui allaient un peu à l'encontre de l'environnement pour notre souveraineté énergétique. Le gouvernement Fréchette, qui voudrait mettre en place un projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux 16 ans et moins. C'est Radio-Canada qui rapportait ça ce matin. Ça fait beaucoup jaser dans l'actualité au cours des derniers mois, des dernières années.
Mais tout le monde est d'accord. C'est le genre de dossier où ça fait des années que ça aurait dû être réglé. Tout le monde est d'accord. J'ai pas vu... Hey, je serais curieux, 88-971-1021, y a-tu quelqu'un qui dit « Non, liberté, les kids en bas de 16 ans devraient continuer de s'acheter de la Red Bull puis de la Monster. » Je pense pas que ça existe vraiment, là.
Puis c'est surtout depuis la mort de Zachary Miron en janvier 2024, qui était âgé de 15 ans, qui a comme eu un arrêt cardiaque relié à la consommation de Red Bull avec son médicament contre le TDAH. La loi qui pourrait d'ailleurs être appelée loi Zachary Miron. En gros, les différents partis qui vont être appelés à se rencontrer lundi pour déterminer si oui ou non on donne un feu vert à cet éventuel projet de loi-là qu'on voudrait mettre de l'avant du côté de Christine Fréchette. le projet de loi, ce serait vraiment juste de l'interdire aux 16 ans et moins pour être certain que ça passe le plus rapidement possible parce qu'on sait...
C'est bien parfait.
Il n'y a pas beaucoup de temps qui reste avant la fin de la session parlementaire.
J'aurais peut-être essayé d'inclure là-dedans la promotion, notamment dans les centres sportifs, je l'aurais mis. Mais des autres recommandations, il y avait de mettre de la taxe puis un prix plancher puis ça, ça va être beau. Là. Moi, si j'ai 25 ans, je ne vais pas payer une taxe.
Non, c'est ça.
Je ne vais pas payer une taxe puis ça ne va pas me mettre un prix plancher parce que je suis capable de prendre mes décisions. Là. Fait que moi, j'aurais été bien à l'aise. L'interdiction 16 ans, go. J'aurais même mis 18 ans personnellement. Mais, regarde, allons de l'avant avec la base, puis on checkera le reste ensuite.
Puis, tu sais, à la limite, des amendements sur un projet de loi, ça se met. La promotion des boissons énergisantes auprès des personnes mineures, je pense pas qu'il y a personne qui va s'opposer à ça non plus. C'est maintenant officiel. On le savait depuis hier, là, mais là, on l'a officialisé aujourd'hui. Éric Duhaime sera candidat dans Bellechasse. C'est d'ailleurs hier qu'il va faire l'annonce officielle de son investiture et par le fait même lancer officiellement sa campagne électorale, le chef du Parti conservateur qui tentera finalement de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Par le fait même, j'en profite pour mentionner qu'aujourd'hui, dans les médias, il a accusé Christine Fréchette de dépenser sans compter comme le faisait à l'époque François Legault. Mm. Le ministère des Transports vient de conclure un contrat pour l'acquisition de 66 radars photo. C'est ce que nous rapportait Radio-Canada. Ça va se faire au cours des deux prochaines années. Donc, l'objectif, ça va être pour ces 66 appareils mobiles-là de faire en quelque sorte des inclure progressivement. Donc, présentement, il y a 30 radars photo fixes au Québec, 22 radars mobiles. On va donc en rajouter 66, donc quadrupler les radars mobiles. C'est des grosses acquisitions. On sait que le gouvernement fait quand même beaucoup d'argent là, avec les radars photo. C'est 14 millions de dollars en amende entre 2020 et 2024.
Les radars photo, ça va être le sujet de notre discussion aujourd'hui avec l'ami Nathan Meilleur qui va venir nous rejoindre en studio dans les prochaines minutes. Puis je suis curieux de déjà prendre vos réactions. 88-971-1021 par texto. C'est quoi votre take sur les radars photo? Où est-ce qu'on devrait mettre ça? Êtes-vous pour partout en vous disant les gens ont juste à respecter les limites? Êtes-vous pour dans les zones de construction? Trouvez-vous que ça devrait aller juste dans les zones scolaires? 88-971-1021, je veux savoir ce que vous pensez des radars photo, puis on en jase dans les prochaines.
En parlant de transport, le ministère des Transports qui souhaite réaménager l'autoroute Félix-Leclerc, l'autoroute la capitale, puis je pense qu'il n'y a personne qui va s'opposer à ça, parce qu'on sait, c'est l'artère la plus problématique l'autre côté du pont. Là. C'est toujours engorgé.
La fin de semaine.
La fin de semaine. Le samedi, tu pars par Robert Bourassa, tu t'en vas sur la capitale en direction est, tu vas toujours avoir du trafic, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir. Donc, c'est un tronçon qui est jugé problématique, surtout entre Henri IV et le boulevard Armand-Paris à l'est.
Ben, en fait, c'est la capitale pas
exact,
mal au complet.
C'est ça. On va se le dire. Ça a été construit dans les années 70, ça répond plus à l'achalandage automobile aujourd'hui. Donc, il va y avoir des études pour savoir c'est quoi le meilleur moyen d'améliorer la fluidité automobile dans ce secteur-là.
J'imagine qu'une des options analysées sera de poursuivre la capitale au-delà d'Henri IV pour permettre... Parce que là, si tu veux aller poursuivre ça à 40, mettons, ouais. Ben là, faut que tu ailles prendre Henri IV, puis là, tu te ramasses dans le même tapon que ceux qui s'en vont vers les ponts. Fait que tu sais, il y a encore, puis c'est Marceau qui le faisait, qui l'a fait remarquer, il y a encore le genre de trou fait où devait continuer la capitale pour aller rejoindre plus loin la 40. Probablement que ça prendrait une coupe d'expropriation, puis il y aurait du monde pas bien ben content que le boisé laisse place finalement à une autoroute, là, c'est clair. Ça ferait pas que des gens contents, mais c'est sûr que ça, tu te dois de l'analyser. Mais à part ça, tu l'élargis-tu? Tu vas-tu régler bien des problèmes avec ça? J'ai hâte de voir, parce que là, on n'a pas c'est quoi les ce qui sera analysé, on le sait pas. J'ai hâte de voir. D'après moi, ça va fuiter dans les médias dans les prochains jours.
Probablement.
Les prochaines semaines. Puis mettons là, que tu arrives avec des solutions. Ça va prendre quoi? 10, 15, 20 ans avant de les mettre en place?
Ben, c'est pour ça qu'il faut commencer à trouver des solutions tout de suite. Là, parce qu'on parle du pont. On parle du pont à étagement dans le Bourgneuf qui pourrait être annoncé au cours des prochaines semaines selon Jean-François Simard. Mais capital, c'est difficile, puis j'ai l'impression que c'est comme une artère qu'on délaisse, puis on dit on va laisser ça de même, puis on peut pas faire grand-chose. Donc, qu'on aille évaluer, parce que ça va prendre des solutions sur le long terme. Là, Québec continue à se développer. Je termine en actualité internationale parce que cette nuit, le gouvernement américain qui a fait des frappes sur un site de lancement de missiles du côté de l'Iran, dans le sud du pays. Puis c'est l'Iran qui a répliqué en accusant les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu. Je vous rappelle que les dernières frappes américaines remontaient à début mai. On pensait au cours des derniers jours peut-être être sur le bord, sur le point d'une entente, puis finalement non, puis finalement oui. Ben là, les États-Unis qui brisent en quelque sorte un cessez-le-feu, je suis pas sûr à quel point c'est un bon signe qu'on s'approche d'une entente.
Merci beaucoup, Mathias. Au sport, et je t'invite à rester si tu veux en jaser. Oui. Haute défaite de 3-2 en prolongation pour le Canadien, ce qui permet aux Hurricanes de prendre les devants 2-1 dans la série. Le CH qui a encore une fois été surclassé au chapitre des tirs, 38-13. L'allié Andrei Svechnikov qui a mis fin au débat en temps supplémentaire. Le match numéro 4 qui sera disputé demain 20h au Centre Bell. Je suis pas toi de ton bord, moi, mon niveau de confiance. Tu sais, depuis le début des séries, moi, on dirait que je suis vraiment never too low, never too high. Moi, je suis tout le temps dans le milieu de jamais trop découragé, jamais trop confiant non plus. Là, je suis peut-être du bord des never too low. Des too low, en
fait. C'est parce que ça fait deux parties de suite que c'est difficile.
Mais ça fait deux games de suite que tu passes à un tir de gagner à la game pareil.
Oui, oui. Puis c'est ça, à force du Canadien, c'est qu'on gagne des parties qu'on devrait pas gagner.
Exact. Mais cette série-là, là, est à deux tirs du Canadien d'être 3-0
c'est
Montréal.
C'est fourette de se dire ça.
C'est un vol qui aurait pas de maudit bon sens avec l'allure des matchs, mais c'est la réalité, c'est factuel. Le Canadien est à deux tirs en prolongation, puis Dieu sait que Frédéric Anderson y voit difficilement
et
les rondelles.
C'est pas facile.
Hein? Et puis c'est dans ce contexte-là que je comprends pas que tu fais pas rien que tout envoyer au net. Envoyer au net, crash le net, garde ça simple.
Parce que pour moi, ça a une limite, ça, de dire je gagne toujours des parties que je mérite pas, puis on voit comme cette limite-là qu'on frappe en ce moment. J'avais comme espoir que le Canadien fasse des ajustements après le match 2 qui s'est très mal passé offensivement parlant. Visiblement, on n'a pas été capable d'en faire. Ça a été très difficile, dernier match aussi.
Martin Saint-Louis bouge pas ses trios.
Bouge pas ses trios, puis à la défense, en sortie de zone, ça a été excessivement difficile les deux matchs. On sait que les Hurricanes mettent beaucoup de pression. Les défenseurs n'ont pas été capables de sortir la rondelle pendant deux matchs consécutifs. Puis ça explique en grosse partie pourquoi on a été capable d'absolument rien créer au cours de ces deux matchs-là. Va falloir, je sais pas, descendre les ailiers, essayer de créer plus de vitesse dans notre zone pour la sortir plus efficacement.
Patrick Laine.
Je viens de nommer vitesse, puis t'as nommé Patrick Laine,
Patrick,
je suis pas sûr.
Hey, attends, Patrick Laine, Frédéric Anderson a de la misère à voir un shot papillon qui arrive de la bleue.
Je comprends.
Tu mets Patrick Laine en power play, tu dis tu bouges pas de là, tous ces shots vont rentrer.
Mais en même temps, Patrick Laine, il a de la misère à patiner aussi.
On le sait pas, ça fait des mois qu'on l'a pas vu.
Dans le temps qu'on le voyait, il y avait de la misère. Je pense pas que ça s'est amélioré.
Je le fais pas demain. Mais si on perd demain, je le fais à 3-1. Ramener Patrick Laine, je le fais à 3-1.
Honnêtement, Joe Veleno joue quoi à 6 minutes par game?
Ah, puis même Dak fait plus rien.
Ah, ça, c'est pas. Quatrième trio, c'est pas facile.
Texier, il fait plus rien. Moi, je
ramène. Pas dur que c'est difficile aussi là, dans les deux derniers matchs.
Je ramène Gallagher puis Laine si on perd à 3-1. Là, pour demain, tu gardes le même line-up. Peut-être que tu rentres Gallagher, tu changes les trios, tu brasses la soupe. Et si tu perds encore demain puis tu te ramasses à 3-1, puis il faut que tu en gagnes 3 de suite, puis tu ramènes Patrick Laine.
Hey, ça serait quand même fou, hein? T'imagines-tu, t'amènes Laine, il score un but.
Ça va arriver. Si tu le ramènes, c'est sûr qu'il score.
Ben là, c'est sûr qu'il score. Faut qu'il la rende au but, là, Max.
Mon micro est ouvert, là? OK, parfait. Je vous écoute parler. Je suis là comme spectateur depuis, 3 minutes, là?
Tu te sens-tu à 110%?
Je me sens à 110%. C'est juste que, je ne vais pas faire trop de temps non plus, mais je peux pas croire que cette équipe-là a travaillé si fort et s'est battue autant pendant toute la saison pour nous offrir le gravy qu'ils nous offrent en ce moment, parce que c'était pas ça qui était sous le radar au début de la saison, pour que ça soit l'aîné qui revienne dans l'alignement puis qui devienne le héros. Hey, attends, deux secondes. Par contre, l'idée de ramener Gallagher... Hier, d'après moi, il y avait au moins deux buts qui rentraient si Gallagher avait été là. Parce qu'il y a eu, des jeux qui se sont passés où les rondelles ont été bloquées devant le filet. On a essayé de cacher Anderson, puis Gallagher, il est fort là-dedans. Il va devant la cage, il brasse les affaires, il est petit, mais il est tough. C'est un nerfé. Moi, je suis sûr et certain qu'il y a peut-être au moins un but, voire deux, qui aurait pu rentrer hier si Gallagher avait été là. Mais là, à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a qu'il faut qu'il serait... T'sais, Dobson aussi, hier, là, ça a été tough en tabarouette,
ben
on va se le dire.
Ça fait deux games,
Ça fait deux games faciles. Puis tu sais, Bolduc, il joue bien, il fait des belles affaires, mais il crée bien trop de revirements. Il échappe la rondelle. Caulfield aussi, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais le nombre de passes qu'il n'est pas capable de réceptionner, là, il y a des gars qui sont sonnés dans cette équipe-là.
Ben oui, ils sont brûlés.
Il y a des gars qui sont brûlés et qui sont maganés. Puis l'idée hier, pendant la période de prolongation, d'envoyer Suzuki un changement sur deux, je ne sais pas si vous avez vu ça aller.
Ah, il jouait sans arrêt.
Il était à bout de souffle à un moment donné. Là. Fait que, tu ne peux pas surutiliser non plus tes gros joueurs comme ça. Mais Patrick Laine, il mérite pas de jouer en série.
Bon,
là.
OK.
Il avait si juste on... à se réveiller avant.
Si on sort pas Patrick Laine, on sort au moins Patrick Roy pour le flambeau demain. On peut s'entendre là-dessus, parce que demain, c'est quasiment do or die. Là. Si tu perds demain, tu perds la série, après ça, en 5. Fait que c'est probablement... Si tu perds demain, c'est ton dernier match à Montréal demain. Tu sors Patrick Roy.
J'ai hâte de voir.
Faut que Patrick veuille aussi.
Ah, il va vouloir.
Ouais, j'ai hâte de voir. Je pense que c'est dans la fosse demain, moi.
Mais ça se peut aussi. Mais, Chelios, on pensait que c'était Chelios hier, ça ne l'a pas été.
Moi, ouais, j'ai l'impression que Chelios va juste pas être. Ouais.
Moi, je pense que c'est le bâton de Patrick Roy qui va être dans la cage de c'est Rona ça. Pour on touche du bois s'il se rend en finale de la Coupe,
sûrement,
par exemple.
Oui.
Je peux pas croire que ce serait pas le bâton
si
du goaler rendu là. Est-ce que ça va être lui pour le flambeau? Mais j'espère que Rona a sorti le chéquier pour payer Roy pour cette partie-là.
Uber Eats l'avait fait.
Ben oui.
Merci beaucoup, Mathias.
Ça fait plaisir.
Le point de match.
11h47 minutes, le temps rapidement de vous rappeler qu'on est en veille d'orage violent à Québec cet après-midi, ce soir, les conditions qui sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, et il y a aussi un risque de tornade avec ces orages. Pourquoi tu ris?
J'ai aimé le de grosse taille, la grêle de grosse taille. C'était
vrai que ça a sorti weird.
Oui,
hein?
Ça a sorti weird, mais ouais. De grosse taille, moi je m'attends, c'est des balles de golf ça au moins là. De grosse taille.
Ben, j'ose croire. Sinon, on est mieux de pas nous écœurer avec ça.
Mais
là,
à un moment donné, il va pas faire passer un animateur radio de la Ville de Québec pour.
Puis les tornades, c'est mieux d'être des bonnes. Là.
Ben là, oui.
Mais soyez prudents pour vrai si jamais
oui,
ça frappe
ça, oui,
cet après-midi. Nathan Meilleur, je voulais qu'on jase de radar photo aujourd'hui parce que c'est Radio-Canada qui nous rapportait ce matin que le ministère des Transports a conclu un contrat pour l'acquisition de 66 radars photo qui seront livrés au cours des deux prochaines années. Il y a un plan au ministère des Transports d'installer progressivement 250 radars photo sur l'ensemble du réseau routier québécois. On ne sait pas nécessairement si ça va être pour quand, là, c'est un plan qu'on a lancé comme ça, progressivement, jusqu'à 250 radars photo. Puis au 88-971-1021, j'ai demandé aux auditeurs leur take sur les radars photo. Et il y a déjà des textos qui sont entrés. On nous dit c'est bien, Henri IV, zone construction, c'est 70, mais le monde roule 90-100. Je suis camionneur, barré à 105, puis du monde me dépasse, je les perds de vue. Ça prend pas beaucoup de temps que je les perds de vue. Alex qui dit pour les radars photo dans les zones sensibles, comme les chantiers, les zones scolaire, les traverses de piétons, etc. J'irais plus loin, j'en ajouterais sur les autobus pour pincer les automobilistes qui refusent de s'arrêter quand les enfants descendent des bus. Radar photo, moi personnellement, zone scolaire de plus en plus. Là.
À 100%. Puis tu sais, quand tu m'as proposé qu'on traite ce sujet-là, c'est la première chose que je t'ai dit, là, il y a une fraction de seconde avant qu'on rouvre les micros à nouveau. Moi, je vis cette réalité-là parce que j'habite à deux pâtés de maison de l'école de mes enfants. Donc, on s'y rend à pied. J'habite dans Limoilou, fait que c'est un quartier où il y a énormément de circulation multiple le matin. À ce temps-ci de l'année, là, les skates sont sortis, les trottinettes sont sorties, les vélos sont sortis. On y va à pied été comme hiver aussi. Puis moi, j'habite dans un secteur de Limoilou où il y a deux lumières près de l'école qui font en sorte qu'on a des automobilistes qui clenchent quand la lumière tombe jaune pour être sûr de ne pas la manquer puis d'être capable de passer la suivante aussi. Puis on est dans un secteur où la rue est beaucoup plus large. Il y a eu énormément d'améliorations dans les dernières années. Plusieurs rues qui sont devenues des sens uniques. On a rétréci la largeur des rues aussi. On est, moi, je suis dans un secteur où est-ce qu'on a modifié beaucoup les pistes cyclables dans les dernières années. Et les pistes cyclables, maintenant, sont à la même hauteur que les trottoirs. Comme on peut voir, entre autres, là, à plusieurs endroits en Europe, là, Amsterdam, entre autres aussi, où est-ce que tu as vraiment le trottoir qui est beaucoup plus large, tu as la piste cyclable, après ça, tu as la chaîne de trottoir et là, c'est la rue qui débute. Certains endroits, ça aide à ralentir le trafic, effectivement. Mais si le plan, c'est d'avoir davantage de radars photo pour les mettre dans ces zones-là, moi, je pense que c'est une bonne idée. Parce que on est plusieurs parents dans mon secteur à avoir communiqué plusieurs fois avec la ville pour demander une présence policière. les limites de vitesse ne sont pas respectées dans les zones scolaires. Ça va trop vite. Puis, quand tu es un adulte et que tu es piéton, ta responsabilité, tu maîtrises mieux ta responsabilité que quand tu es un enfant. Tu sais, quand tu es un enfant, tu pars à la course le matin parce que tu vois ton meilleur ami, l'autre bord de la rue, il reste 2 secondes au piéton, il y a un char à ce moment-là qui décide qu'il clenche parce qu'il ne veut pas manquer sa lumière verte parce que lui, il est en retard au boulot ce matin-là. Puis ça, ça ne pardonne pas. Je pense que d'ajouter des radars photo comme on a fait du côté de la rive sud, où il y a un collègue tantôt qui me parlait de ça, puis je trouve que l'expression est excellente, c'est un slingshot carrément, tu sais, juste avant l'arrivée des ponts. Il y a un radar photo qui est un des premiers qui a été installé à Québec, qui est un radar fixe que tout le monde connaît maintenant. L'objectif à la base de ce radar photo-là, c'était de ralentir la circulation à l'arrivée de la courbe pour aller prendre le pont Pierre-Laporte, justement pour éviter que s'il y a embouteillage dans la courbe, que ça crée justement des accidents. Mais il ne sert à rien, ce radar-là. Ça, c'est une trappe à tickets. Tu sais, les gens ralentissent avant le radar puis ils reclenchent après le radar. C'est ça que les gens font. Des radars mobiles comme ça, qu'on est en mesure de déplacer dans la ville pour éventuellement se rendre compte que, OK, là, peut-être qu'on a une trappe à tickets, entre guillemets, parce qu'on en donne beaucoup. Ben, après ça, on pourra faire l'exercice peut-être d'en installer des permanents. Mais clairement, il y a des endroits en ce moment où est-ce que c'est parce qu'on manque d'effectifs policiers ou est-ce que c'est pas la priorité de la ville, mais en zone scolaire sur les chantiers de construction,
exact.
Il y a clairement des manques à gagner en ce moment, puis ça peut être des outils qui vont aider.
Ça me fait toujours rire l'expression « trappe à tickets » parce que, OK, fine, même si c'est ça, tu sais, je veux dire, oui, peut-être que ça engrange des revenus puis qu'on crache pas là-dessus du côté du gouvernement, puis il y en a, tu sais, celui de Dufresne Montmorency, c'est auteur François de Laval.
Ah oui, oui.
Il y a du cash sur Charest aussi, celui sur Charest.
Ouais.
Mais à un moment donné, si tu le sais puis tu te fais tout le temps pogner, mais c'est pas le radar le problème.
Mais non, c'est ça. C'est sûr que si tu te fais pogner, puis tu sais, ça m'est arrivé, là, j'en ai eu des tickets de radar photo, puis comme n'importe qui, quand je reçois le ticket, je fais « Ah, maudite affaire! » Puis c'est tout le temps désagréable, puis tu sais, ça dépend des endroits aussi, mais tu sais, des fois, ça peut varier entre, je sais pas, 100 puis 170, 175 $ mais en même temps, tu étais en infraction. Sauf que ce qui me gosse, des fois, c'est de voir des policiers qui vont se stationner puis qui vont... Des policiers qui vont profiter d'un endroit où est-ce que tu le sais, bon, que le stop est peut-être un petit peu moins bien fait puis que les gens restent en deuxième vitesse, là, tu sais, au lieu d'arrêter complètement, mais que ça fait des mois, moi, comme parent, que je demande d'avoir une présence policière aux abords de l'école, mais le policier n'est pas là.
Oui, ça, on s'entend.
Fait que si le policier décide qu'il reste dans la trappe à tickets, fine, tu fais ta job, t'as raison, Max, tu sais, il y a des gens qui sont en infraction à ce moment-là, il y a un code... Puis les gens respectent pas le code. Mais si ça peut permettre, par exemple, de convaincre les gens de ralentir dans des endroits qui sont où t'as pas de deuxième chance s'il arrive quelque chose, là. Ça peut être fatal, comme les zones scolaires, puis comme les chantiers de construction. Je pense à ce moment-là que ça peut vraiment valoir la peine d'investir dans ce moment, dans ces investissements-là. Puis tu sais, c'est la mairesse de Montréal, l'ex-mairesse de Montréal, Mme Plante, qui, on le dit dans l'article, avait frappé l'imaginaire il y a quelques années en disant qu'elle en voulait 300.
Ouais.
Juste sur le réseau routier de Montréal, tu sais. Mais en même temps, pourquoi pas? Il y a combien d'écoles primaires à Montréal, tu penses? Mm. Fait que, tu sais, si ça permet d'avoir un radar photo dans chaque zone scolaire pour convaincre les gens de ralentir, puis je trouve que l'idée par texto d'en installer sur les autobus scolaires, c'est une très bonne idée aussi.
Ouais, ou tu sais, sans que ce soit ça directement, il y a peut-être quelque chose à faire avec dans ce genre-là, en effet. Il y a Marie-Ève qui texte, « Hey, Lac Saint-Charles sur le boulevard de la Colline, 2 enfants frappés, événements différents dans les 3 dernières années. Je talonne plusieurs élus pour plus de surveillance policière sans succès. » C'est là, en effet, que ça devient peut-être fâchant après de voir des policiers aller se cacher dans des trappes à tickets.
Ah,
quand
oui.
Tu dis, « Hey, une place où ça pourrait sauver des vies de kids, ben, il y a personne qui y va. »
Ça, c'est pas un investissement dont je peux être contre aujourd'hui. Mmh. De voir qu'on décide d'amener davantage de radars photo, tu vois, comme société, je trouve que ça, c'est une bonne dépense.
Nathan Meilleur, un gros merci.
Merci à toi, puis merci surtout pour l'information là, concernant la grêle de grosse taille.
La grêle de grosse taille. Merci beaucoup, Nate. À demain. Dans les prochaines minutes, Jean-François Fortin s'en vient s'installer avec Antonine Iacarini et Mathias Turcotte. Ensuite de ça, c'est Gravel dans le retour. Puis nous, on se dit à demain. Ciao, bye.
Restez là. Dans quelques instants,